journée s'est déjà avancée. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Il est 22h, c'est l'heure de Confidence. Eh bien, allez, je vous attends, 01 53 48 3000. Bah, je vois que vous appelez déjà, c'est bien. C'est bien parce que j'ai la possibilité de vous mettre en attente. Bien, bon, bah écoutez, nous sommes jeudi 10 mars, tout à l'heure, 22h30. Samir sera parmi nous, par téléphone bien sûr, puisqu'il est en Algérie. Voilà, pour répondre à vos nombreuses questions. Donc préparez vos questions pour Samir, il a réponse à tout, hein, vous remarquerez, mais vraiment dans tous les domaines. Ah ouais, c'est un cerveau puissance je ne sais combien. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que nous le recevrons tout à l'heure. Mais avant, eh bien, pendant cette demi-heure, vous pouvez appeler et puis pourquoi pas vider votre cœur, par exemple. Hein, vous faire un peu de bien. C'est vrai qu'en ces temps un peu compliqués, hein, c'est vrai que Covid, guerre, tout ça. Enfin, le monde est vraiment de plus en plus. Il a toujours été, hein, certains, mais. Les hommes ne sont vraiment pas sages. Voilà, c'est vrai que ça fout le cafard. Bon, on est là pour se remonter les morales, les uns, les autres. Et puis on espère des jours meilleurs, n'est-ce pas? Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses, les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà. C'est vrai que nous sommes tristes en ce moment. Hein. C'est ouais, pas beau, hein. Pas beau l'être humain. Hein. C'est pas le monde qui est pas beau, c'est l'être humain qui est pas beau. Voilà. Bonsoir Giovanni. Giovanni, il est beau, il est gentil.
Voilà. Mais il faut, et avec le sourire aussi.
Voilà, exactement.
Mais il faut sourire, malgré tout.
Oui, bah, tu sais, il y a des moments.
Oui, c'est sûr.
Il y a des moments, eh ben, on est un peu. Comment dire, un peu dépité, un peu. Voilà. Oui, les nouvelles, tout ça. C'est comme ça. Mais bon, ça va nous passer.
Mais heureusement qu'on a toujours le rire par moment pour quand même essayer de nous.
Ah, bah oui.
C'est ce qui nous reste, le rire.
Bah écoute, heureusement qu'on est là pour se soutenir tous les uns les autres, parce que je pense que si on était isolés, seuls, face à un écran télé, je pense qu'il y en a beaucoup qui, comment dire, qui se laisseraient glisser comme ça par le bas. Bon, voilà, on est là. Beurre FM est avec vous, chers amis, au 01 53 48 3000. Allez, on se réveille. Vous pouvez, pendant une demi-heure, là, avant que Samir n'arrive, eh bien, vous pouvez, par exemple, rebondir sur ce qu'on s'est dit cette semaine, hier, avant-hier, etc. On s'est dit beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des choses très intéressantes, ma foi. Hein. On a beaucoup parlé des femmes, puisque c'était la semaine des droits des femmes. Parce qu'il y en a qui disent le jour de le 8 mars, c'est la journée de la femme. Ça ne veut rien dire du tout, la journée de la femme. Non, c'est la journée des droits. Oui, parce qu'elles se sont battues, hein, les femmes. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont lutté, mon Dieu. Merci, nos amis de Facebook, d'être présents. Parce qu'il y en a qui sont plus fidèles que d'autres, je remarque, sur Facebook. Je remarque tout, hein, vous savez. Merci, Sakina. Merci, Zara. Ah, Zara. Ben oui, ma Zara. Aïe. Ma Zara, c'est vraiment une fidèle de chez fidèle. Et je l'aime fort, elle le sait. Voilà, merci, Sakina. Merci, Zara. Merci, les personnes qui sont à l'écoute. Alors, je vois qu'il y en a qui cliquent. Oui, il y a Julia aussi. Hein, Julia, Fatima, la philosophe. Ah oui, c'est une fidèle aussi, hein, rien à dire. Les autres, elles dorment. Les autres, c'est des infidèles, que je vous dise. Bah oui, des infidèles. Voilà, ça fait bien, infidèle. Infidèle, ça fait un peu connotation religieuse. Bon, allez, appelez, je vous attends. Hein. On s'est dit beaucoup de choses cette semaine. Beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous attendez juste Samir, mais moi, je vous attends, là. C'est calmos, hein, côté standard. Je ne suis pas contente. Je prends des vacances. Allez. Bah oui, franchement.
Le peu qu'on a eu, c'était pour réagir sur le football.
Ouais, exactement. Peut-être que j'aurais rabaissé le moral, peut-être. Bah, je dis ce que je pense. Hein. Je ne suis pas bien aujourd'hui. Je suis un peu morose. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde moins l'actualité. L'actualité, c'est pas bon pour le moral. Hier, on a parlé des droits, oui, des droits des femmes, etc. Alors, en France, vous savez que le droit de porter un pantalon, ben, il a été abrogé plutôt. C'était quand? Ben, en 1973. Ils ont attendu 1973 pour abroger cette loi, pour la retirer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que jusqu'à 1900, bon, elle n'était pas appliquée, bien sûr, heureusement. Bon, mais elle était là, elle était en place, Giovanni. Elle était en place, cette loi. C'est-à-dire qu'en 73, on a retiré cette loi. La femme, attendez, je vais vous la retrouver. Mais c'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Non, mais on a l'impression de rêver quand même, hein. Ce monde, c'est un monde de fous, hein. Vraiment, hein. Vraiment. Comment on interdit à la femme de porter portable? Parce qu'on a l'impression que la France a toujours été un pays moderne, aux idées modernes, la femme a tous les droits. Mais non, il n'y a pas si longtemps, je vous l'assure. Il n'y a pas si longtemps, hein. Regardez, en 73, le port du pantalon était encore interdit sur les textes de loi. Ça, peu le savent. C'est-à-dire que si une femme portait le pantalon, bon, ça a été bien sûr pas appliqué pendant voilà ces années 70, mais avant les années 60, une femme qui portait le pantalon, elle avait droit à un PV, à une amende, hein, et même passible de prison. Vous imaginez un petit peu. Et d'ailleurs, il y a Gilou, je ne sais pas si vous connaissez Gilou, moi j'aime beaucoup Gilou. Gilou de YouTube, vous savez, il a une chaîne sur YouTube qui est assez intéressante. Je la regarde régulièrement le soir. Il y a des coups de gueule, c'est intéressant. Moi j'aime bien. Voilà, Gilou, je l'aime bien. En plus, il a le même chien que moi, hein, même bébé, hein. Punaise, hein, c'est une fifi. Moi c'est Platon et Ramsès. Donc je regarde et puis il y a des intervenants, c'est assez intéressant. Il y a un niveau assez soutenu, moi j'aime, voilà. Donc il a mis sur mon mur, sur mon poste de cette loi qui date d'avant 73 concernant le port du pantalon qui était interdit aux femmes, il met une amie, alors voilà, il dit qu'une amie devait passer son bac, une amie à lui devait passer son bac dans les années 70 à Paris, on lui a refusé l'accès dans le lieu parce qu'elle portait un pantalon. Habillez-vous décemment, lui a-t-on dit, vous vous rendez compte, en 60, combien Gilou? En 70. 70. C'est, on n'imagine pas, c'est fou. Ah oui, incroyable. Voilà, donc Gilou, un petit coucou à Gilou. Ahdar wesh habit. Et c'est vrai, ahdar wesh habit, hein, vraiment, hein, c'est liberté d'expression totale sur YouTube, si vous voulez le découvrir. Gilou, D-J-I-L-O-U, ahdar wesh habit. Ça dit bien ce que ça veut dire, on lui fait un grand coucou. Ouais, c'est vraiment un pote, moi j'aime beaucoup cet homme, son état d'esprit et puis ses intervenants aussi. Alors, donc, évidemment, c'est vrai que... Alors, moi, j'ai répondu, hein, j'ai dit, oui, les traces d'avant 1905, parce que cette loi, elle a été abrogée en 1905, hein, mais bon... elle a été mise en place, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, d'avant 1905. Non, c'est pas la loi qui a été mise en 1905. Moi, si vous voulez, je voulais faire le lien avec la loi... de la séparation des églises et de l'État. Voilà. Hein? Voilà, d'avant 1905. Alors, j'ai mis les traces d'avant 1905, les stigmates de ce qui restait, quoi. En somme, j'ai mis la charia est présente dans toutes les religions. Les hommes s'en sortent bien, toujours bien. Ici et là-haut. Ben oui, là-haut, ils ont des houris. Nous, on n'a pas, hein. Ah, nous, on est oubliés. Vous imaginez? Houris, hommes. Allez, il n'y a aucun homme. Si on avait mis les femmes ont droit à des hommes vierges, des houris, là-haut, comment vous dire? Je crois que cette religion, elle aurait plus existé depuis longtemps, hein. Il n'y a personne qui l'aurait pratiquée. Vous imaginez? Les hommes? Ah non. Non, jamais. Leurs femmes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tous les droits, mais même mortes, leurs femmes, ils ne supporteraient pas que même mortes, une fois qu'elle est morte, c'est fini, normalement. Non, même mortes, ils ne supportent pas qu'elle ait des houris là-haut. Donc, elle a été adaptée pour eux. Donc, on a fait, vous, messieurs, vous avez droit, des houris. Non, vos femmes, il n'y a pas de souci. Vous avez... Non, on les cite même pas. Vous les... Ça va, là? Ça vous va? On les cite même pas. Nulle part. Eh ben, on ne les a pas cités. Ça vous parle pas un petit peu? C'est pour ça qu'il y a des trucs, moi, je ne crois pas du tout, alors. Non, je ne peux pas. Ça ne rentre pas dans mes neurones. C'est pas possible. Vous imaginez? Ça a été adapté à la mentalité des hommes qui étaient hyper, hyper machos de l'époque. Parce que les hommes... pouvaient épouser plusieurs femmes, donc on leur a dit vous aurez des houris, 72, sur Terre 3, 4, 5, 6, mais la haute, 72, allez, les vierges en plus, c'est-à-dire que tous les jours vous les déflorez, et à chaque fois que vous les déflorez, elles se referment et allez, on y va, c'est vraiment c'est comment dire, c'est la grande c'est la fiesta du sexe, quoi. Non mais c'est vrai, tu peux rigoler, hein, Giovanni, mais ça ressemble à ça. Donc voilà. Et donc on a adapté. Vous imaginez, on dit les femmes, elles ont droit à des houris hommes, des vierges. et que tous les soirs elles ont droit, machin. Ah ben, tous ils disent, ah non, cette religion, nous on veut pas. Ah non, c'est pas possible. Essayez de nous en ramener une autre qui soit plus à nos goûts. Eh ben, c'est ça qui s'est passé. Alors donc, ce qui fait qu'on leur a fait une religion, mais vraiment sur mesure, comme un costume. Sur mesure pour les hommes. Et les, comme leur djellaba de l'époque. Et les femmes, wallou. Alors après, ils ont dit, hé, de la religion, vous l'aurez n'habboura. Ah oui, les houris pour nous et les femmes, wallou. Ah nous, on l'aime cette religion. Ah oui, Jésus, il a pas dit ça. Donc nous, Jésus, on n'en veut plus. Moïse non plus, on n'en veut pas. Là, il a dit ça, lui. Ah oui, celle-là, c'est tout à fait nous. On se reconnaît.
T'arrêtes vraiment pas.
Ah oui, mais attends, mais je peux dire la vérité. Il faut être, non, mais il faut être logique. Attends, franchement. Non, mais c'est une croyante qui parle, en plus. C'est vrai que je crois en Dieu. Mais les religions, très honnêtement, c'est des légendes pour moi. Alors, ils disent, alors, donc, comment dire? Oui, j'ai bien, les hommes s'en sortent bien, ici-bas et là-haut. Alors, dans toutes, les hommes ont autorité sur les femmes. Vous me remarquerez. Donc, les hommes ont inventé les religions pour dominer les femmes. Et certaines en demandent, attention, parce qu'il y en a, alors là, ce soir, il y en a certaines qui disent, il y en a le que chétan et tout ça. Parce qu'elles en demandent, les femmes. Il y en a, elles aiment. Mazo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas mazo. Voilà. Moi, je suis logique. Et mon Dieu à moi, eh bien, Subhano, il est tellement juste. Il est tellement amour, tellement spirituel. Jamais il parle de virginité et de ces choses-là. Mais jamais. Il est que dans la spiritualité. Il est dans le recueillement, dans la sagesse, dans l'abnégation, dans le don de soi, dans la charité, dans l'humanité, dans le rapprochement des gens. Il n'y a pas de différence. Regardez, tellement on a fait des différences et tellement vous avez mis des religions partout sur la terre, tout le monde se tape dessus. Le chrétien, il dit, moi, c'est moi le meilleur et je tape l'autre et machin, et le juif et le musulman. Ah, le bouddhiste, il est gentil. Lui, il est sympa, le bouddhiste. Bouddhiste, il est pas, d'abord, il a pas de religion. Voilà. C'est une philosophie. Donc, c'est tranquille. Pour ça, j'aime bien la philosophie. Il est zen, le bouddhiste. Il fait que de se recueillir et prier, c'est tout. Le reste, il s'en fiche. Ben, les belouches gab denia, le bouddhiste. Il a pas les femmes, les hommes. Ben, les belouches. Il est tranquille. Tranquille, zen. Toute la journée, il est, calme, il parle pas. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez? Donc voilà, chers amis. Je vous ai à peu près tout dit. Écoutez, vous prenez de ce que je dis ou vous laissez, c'est pas grave. Voilà. Moi, je suis juste. Je pense. Je dis pas que je suis dans la vérité. La vérité n'existe pas. Attention. Chacun ayant la sienne. C'est juste que j'essaie d'être cohérente, d'être logique et dans l'observation, tout simplement. Voilà, Dieu est amour, Dieu aime les êtres humains, Dieu n'aime pas que les hommes. Et les houris, alors là, je veux dire une chose, je crois qu'il y en a qui... Alors, surtout les djihadistes, alors ceux-là, ils se sont fait exploser. Oh, mon Dieu, alors, malheureusement, il y a des victimes, c'est l'horreur, ça. Par contre, on peut pas... Non, ça, c'est monstrueux, ça, c'est horrible, c'est monstrueux. Par contre, s'ils se font exploser tout seuls, et qu'ils meurent tout seuls pour aller voir les houris, ben, ils vont avoir des surprises, hein, parce que les houris, ils vont avoir des grappes de raisin, paraît-il. C'était ça la bonne blague. Ils arrivent là-haut, on leur dit, ah ben non, les houris, ben t'as droit à 72 grains de raisin. Voilà. Allez, vas-y, régale-toi. Ah oui, ils ont droit même à des rivières de vin, paraît-il. Tout ce qu'il n'y a pas ici. Bon, allez, on a Safia. Bonjour ma Safia. Qu'est-ce qui se passe?
On peut la prendre après?
Et à la pause?
Oui.
Safia, et à la pause ma chérie. Je te reprends juste après, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, mais il arrive à 22h30 notre Samir qui nous parle de spiritualité. J'aime beaucoup cet homme, sa sagesse, spiritualité, vraiment, l'amour à fond. Que ça, c'est ce que j'aime moi. Safia nous appelle de la Courneuve. Bonjour Safia.
Ouais, je te rejoins complètement pour Samir, effectivement.
Est-ce que tu peux éteindre ta radio, le haut-parleur, ma petite Safia adorée?
Et là?
Ah oui, ma chérie, c'est très bien. Parfait.
Il y a plein de clarté là.
J'espère. Si tu as tout coupé, ça va le faire.
Bah ouais, c'est ok.
Alors?
Ouais. Non, enfin, par rapport à ce que tu disais, effectivement, moi, je sais que personnellement, cette histoire de journée de la femme, c'est rédhibitoire pour moi. Cache. Dans la mesure où est-ce que ma fête, c'est tout au long de l'année, et puis bon, le jour de la femme, leur fête de la femme, 8, personnellement, je suis...
C'est les droits de la femme, parce que les gens, non, voilà, les gens n'ont pas compris souvent. Vas-y.
Bon, dans le principe, après, on est autant éduqué, éclairé, toi que moi. Effectivement, tout ce qui est principe de libération de la femme, on sait que la société française, c'est une société conservatrice. Et les mouvements féministes, MLF, ou une figure de proue, tu parlais de Olympe de Gouges. Ok, d'accord, elle est tout à fait remarquable. Après, de l'autre côté, dans ce qui lui reste de Simone de Beauvoir aussi, avec son deuxième siècle, il faut s'en contenir au fait, à la réalité. Il y a le droit, c'est un discours. Le droit est une bataille sans relâche et systématique. Le droit,
c'est ça.
Pardon ?
Oui, c'est ça. C'est de ça.
On vit dans un état de droit, je ne comprends rien du tout, et le droit de la femme est sacré, et il est lié à sa nature, à sa condition.
Et
après, dans les faits, dans la réalité, tu le constates tout le temps, toi qui es une femme en pointe de toute bataille pour la justice, pour l'égalité, et je suis tout autant, attention. Hein. Mais après, de l'autre côté, moi, je m'en contente à les libérations d'être terre à terre et d'être dans ce que je vois comme, on dirait comme Saint Thomas. Et la société française, elle s'est vachement éclatée. La recomposition des familles, aussi la désorientation, je le vois dans mes cercles d'amis, dans toutes leurs problématiques, au plus haut degré, vraiment tortueux et avec beaucoup de douleur et de souffrance. Mais ça, tu le clames haut et fort, toi, dans ton activité, hein, dans ta profession de foi, quand on voit tout ce qui arrive à ton antenne.
C'est vrai.
D'accord.
C'est vrai. Oui. Je suis d'accord.
Non, enfin, moi, je suis pas compliquée comme femme. Je suis une femme simple et qui.
C'est vrai. Ça, je l'avais remarqué. C'est appréciable. Je l'avais remarqué. Et c'est ce qu'on aime chez toi, Safia. C'est cette humilité et puis cette intelligence et beaucoup de réflexion. C'est important, la réflexion.
Mais c'est sacré.
Je suis d'accord. À 100%.
Si on ne se structure pas dans une réflexion, on ne se construit pas.
Ben oui.
Ce qui compte chez moi, c'est se construire en qui on est pour pouvoir avancer pas après pas, même si ça n'a pas de fourmi. Moi, je n'ai pas la prétention de me dire que je forme des batailles, mais quand je m'engage dans quelque chose, après, je vais jusqu'au bout. Je lâche rien.
Tu as raison.
Et donc après, de l'autre côté, la journée de la femme, c'est, pour moi, c'est un cachex. Après, de l'autre côté, je m'intéresse au vrai combat du quotidien, du terre à terre. Parce que après, tu sais, quand on regarde la réalité, c'est ce qui se passe dans les déchirures, dans les problématiques de rupture ou de séparation, c'est pas du joli.
C'est vrai tu parlais de loi. C'est vrai qu'on est protégé par des lois en France depuis pas longtemps, hein, finalement, hein, parce que bon, ça se chiffre pas par, ça remonte pas au Moyen-Âge, j'ai envie de dire, tu vois. Mais il y a encore, il existe. Donc cette journée, finalement, c'est pour nous remémorer des Olympes de Gouges et d'autres femmes, comme tu viens d'en citer, et d'autres, et qui ont lutté au péril de leur vie, hein. Elle a été décapitée et d'autres aussi, des anonymes. Mais combien de femmes sont tombées aussi sous les coups des lois de l'époque qui étaient archaïques, sous les coups de leur mari, sans aucune punition. Le harcèlement sexuel, par exemple, il est très récent. Il est très très récent. La loi, elle est récente. Et quoi d'autre encore? Mais aujourd'hui, si on commémore, enfin, le droit, hein, je dis pas le jour. Et tu as raison de dire, et pas de confusion, c'est pas la journée de la femme. Non, on n'en veut pas. C'est la journée des droits de la femme. Et les droits de la femme, c'est pour commémorer celles qui ont lutté pour nous. Et puis, celles qui luttent encore dans certains pays, dans certains endroits du monde. Je pense notamment aux malheureuses Afghanes qui replongent encore dans l'obscurantisme le plus sordide et le plus violent, quoi, enfin.
Pardon, excuse-moi, j'aimerais bien pointer quelque chose, je peux ?
Oh, mais bien sûr, tu peux, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, vas-y.
Parce que moi, ce que je t'avais j'ai appuyé dans un abcès en communiquant avec toi, c'est le principe du droit positif, le droit de l'état de droit, la loi, la norme, la loi.
Oui, j'avais bien saisi.
Après, de l'autre côté, ce que je veux te dire, il y a le discours du droit et les principes de réalité.
Les principes, voilà, c'est ça.
La réalité. Moi, je suis une femme de terrain. Et je sais ce qu'il en est, tu vois. Moi, les gens qui sont vraiment, vraiment victimes jamais ils ont le temps de lever la tête du guidon. Elles sont dans l'engrenage et elles sombrent. Et après, de l'autre côté, celles qui sont dans des mécanismes de perversité, et moi, je prends en train d'attaquer la femme à proprement parler, mais t'en as qui sont redoutables.
Ah oui. Ah, ça oui.
Je referme cette parenthèse, oui, mais après, oui. Si tu veux élargir sur le plan planétaire, la condition de la femme est en péril. Après, moi, j'irai pas dans ton sens, dans le sens où est-ce que tu dis. Moi, tu sais que je suis assez rigoriste dans mon travail, dans mon travail de fond, dans ma spiritualité. Et le Coran, quand on va dire, ouais, les folias, enfin, ils vont se retrouver, genre, je sais pas quoi. C'est faux. S'il n'y a pas plus égalitarisme et pas plus grande démocratie, quand on est et qu'on a fait un travail de fond. Moi, personnellement, je travaille tout le temps, sur moi, personnellement, et aussi sur les textes sacrés, que ce soit la Torah, les évangiles. Et le Coran, c'est le minima de respect qu'on doit avoir pour le monothéisme, pour être à l'aise dans sa propre religion.
Mmh. Ouais. Ouais.
Et comme je disais encore la semaine dernière, avec, avec qui j'ai bien échangé, qui m'a ouvert pas mal de portes de la grande lumière, on avait échangé sur le principe du Tawhid, l'unicité d'Allah, et le fait aussi de ces 99 attributs. Et c'est vrai que là, et qu'on en tête de toutes les sourates, on a Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et c'est cet arc de pureté, d'amour qui englobe la matrice du Coran. Et c'est vrai qu'après, moi, quand je vois la nature humaine, moi, c'est pas les humains qui m'ont appris à être musulmane. Hein. C'est moi et mon travail de fond. J'ai envie d'être... Après, s'il y a des gens qui sont dans leur... excuse-moi, mais j'appelle ça de la superstition, dans le haram, qui vont s'arrêter dans un carré, mettre un carré de voile, etc. Tout ça, c'est bon. C'est de la discorde. C'est pitoyable, c'est misérable, parce qu'on est loin, loin, loin de la pureté, de la luminosité.
Est-ce qu'on a besoin d'une religion pour parler de pureté? Parce que je sais pas, enfin, moi, il y a tellement de contradictions. Il y a tellement de contradictions dans tous les textes. Moi, je les renvoie dos à dos. Voilà, moi, personnellement, ça, voilà. Je veux dire que je ne trouve pas ce que tu me dis. Parce que j'ai fait tout dans tous les sens, en diagonale, tout ça. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas être, parce qu'on peut en dire autant sur le bouddhisme, sur l'animisme, sur beaucoup de religions. Mais par contre, est-ce qu'on ne peut pas être spirituel sans être pratiquant en une religion? Voilà, sans dogme. Voilà, on peut être spirituel. Alors moi, j'ai trouvé plus de spiritualité en dehors des dogmes que dans les dogmes, par exemple. Tu vois?
Mais oui, on est d'accord.
Par exemple, tu vois. Voilà.
Après, de l'autre côté, comme tu dis, ce que je veux te dire, c'est quand
que je respecte, moi je respecte tout. Alors là, dire qui croit, qui croit pas.
Excuse-moi, quand on embrasse la spiritualité, on l'embrasse avec délicatesse. Et comme on en avait parlé.
Oui, mais encore. Ça regarde celui qui croit, délicat ou pas. Mais tu vois, Safia, là où nos chemins se séparent, c'est dans le sens où, je veux dire, personne n'a le droit de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, de croire ou de ne pas croire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on veut trouver du beau dans quelque chose, eh ben, je vais dire, on voit que le beau. Et on voit pas le reste. Est-ce qu'une mère, elle voit, par exemple, un enfant? Allez, tous les enfants ne sont pas forcément beaux. On n'est pas tous beaux, hein, voilà. Donc, et quoi que la beauté, c'est un truc qui n'est pas, voilà. Chacun il voit ce qu'il veut. Mais une maman, son enfant, bah, il pourrait être le plus moche bébé du monde. Elle va le voir comme le plus beau de la terre. Tu sais, il y a un proverbe algérien qui dit "Kul khanfous and mourzel", c'est-à-dire chaque hérisson. Je sais pas pourquoi le hérisson ils l'ont vu pas beau. L'hérisson il est beau. Bref. Attends, ils disent "Kul khanfous and mourzel", c'est-à-dire le plus moche des moches chez sa mère, c'est une gazelle. Il est beau. Voilà. Alors donc quand on veut trouver du beau. On peut trouver du beau dans quelque chose, voilà, dans n'importe quoi. Donc, moi, le beau, pour moi, il est ailleurs.
Je dis, attends, par rapport à la beauté, je dis que l'intelligence est au service de la beauté. C'est-à-dire que c'est sous le prisme et l'angle qu'on voit la beauté. Et après, de l'autre côté, par contre, il faut rattraper sur nos divergences et nos chemins qui se, bon, qui se séparent, comme tu le dis, toi.
Ah oui, mais sans bruit. C'est vraiment fait tout gentiment.
Ouais,
voilà. Et comme je discute aussi avec des amis sur plein de points, hein, que ce soit politique et tout, on diverge sur. Pardon, c'est pas méchant. Oui, vas-y, ma chérie.
Je veux me clarifier sur un angle. Moi, j'ai à convaincre personne. Je ne parle jamais de spiritualité. Moi, personnellement, elle est.
Ah, je parle pas de toi. Elle... Non, mais je parle des gens en général. Pas toi, parce que toi, en l'occurrence, tu parles de comment tu vois les choses, enfin, ta spiritualité à toi, qui se respecte. Vraiment, je la respecte. Mais je te parle en général, parce que tu m'as fait penser à autre chose, où des gens. Si tu veux, si on tient par exemple un discours différent, tu as des personnes qui se montrent très intolérants et qui veulent imposer leur vision des choses. Toi, tu n'imposes rien. Tu n'imposes rien. C'est magnifique. Tu donnes ton point de vue. J'adore. Moi, je te donne mon point de vue. Hein, je dis voilà les religions, ce que je pense. Voilà, c'est moi qui pense ça et je respecte toutes les religions, quelles qu'elles soient. Mais moi, je pense voilà tout simplement. Parce que en tant que spirituelle et non religieuse, je pense voilà différemment. Je ne crois qu'en Dieu. Voilà, c'est clair. Voilà. Je crois en Dieu. Je crois en lui parce que j'ai toutes les. C'est pas les preuves, mais pour moi personnellement, parce que quand tu dis à des gens des preuves, ils te disent ouais, mais t'as pas des preuves matérielles. Ben moi, j'ai les preuves matérielles que Dieu existe. Voilà, j'ai le droit. Donc je crois en Dieu parce qu'il m'a prouvé son existence. Je le vois tous les jours dans les miracles de la vie. Je le vois tous les jours à travers mes congénères, à travers tout quoi, tout le vivant. Et j'inclus aussi tout ce qui va avec la flore, etc. Enfin. Je crois, voilà, je crois en lui parce qu'il nous prouve que voilà un être humain un être vivant qui sort d'un être vivant, il est vivant. C'est incroyable. Pour moi, c'est rien que ça déjà. Je crois en Dieu, voilà, rien que ça. C'est un miracle pour moi. Mais les religions, pour moi, elles ont abîmé l'image de Dieu. Voilà, c'est ça. Le problème, il est là. Ça, tu vois. Et je dis pas les extrémismes. Hein. Je parle des religions. C'est dommage parce qu'elles entachent un peu l'image de ce Dieu miracle. Vas-y, ma chérie. Ils l'ont rendu terre à terre. Oui.
On est d'accord parce que automatiquement, il y a une perversion du fonctionnement du genre humain. Après, on sait très bien que systématiquement, dès que l'humain il a perverti la création, la nature, telle que l'état du monde dans lequel on est en train de le foutre. Hein.
C'est encore autre chose, ma chérie. Ça, c'est vrai. Hein. Le monde, là, oui.
C'est les agissements de la totalité. On est dans un fonctionnement psychopathe.
Oui, ça, c'est encore autre chose. Mais on parlait de religion, là, tout à l'heure. Mais là, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai que le fonctionnement du monde, c'est pas abominable.
Après, il faut s'en remettre à la simplicité. Et la simplicité, je t'assure, la simplicité, c'est que quand tu vas être en connexion avec l'alignement, n'importe quel être humain, quand tu vas te connecter dans son humanité de cœur à cœur et avec qui il est, sincèrement, même la pire, hein, je veux dire, moi je suis tombée sur des ozos, des trucs de roue. Je vais communiquer. Je sais pas, je suis un peu young, hein, c'est assez frontal, hein, y a pas de problème.
Tu as raison.
Tous les profils et la typologie des êtres humains, je sais m'y frotter et je sais, entre guillemets, m'adapter tout en restant en droiture et en tout bien, tout honneur, comme dirait l'autre. Mais après, de l'autre côté, tu peux toujours toucher la dimension la plus noble, c'est la dimension du cœur. Et la spiritualité, tu la rencontreras, comme tu dis, dans tout humain.
Dans la feuille qui tombe de l'arbre. Mais absolument dans tout. Dans le silence, dans le chant des oiseaux. Étonnée, je suis épatée tous les jours. Par la création, par la vie. Voilà. Et je remercie Dieu tous les jours. Hein. Tous les jours que Dieu fait, je me réveille. Je remercie et je lui demande pardon aussi. Je lui demande pardon pour toute l'humanité, pour ceux qui abîment ce monde et qui ont complètement détourné son message, quoi. Tu vois, parce que Dieu est amour et nous a demandé de nous aimer. Il nous a tout donné. Il n'a pas besoin de parler aux êtres humains. Pour moi, il a parlé avec personne. Il nous a tout donné. Quand tu es dans le silence, moi, je t'assure que je l'entends. Quand tu es dans le silence, et je suis pas schizophrène, mais j'ai toujours entendu Dieu me parler à travers la nature. Quand tu es dans le silence, eh bien, t'as des messages qui te viennent parce que tu te sens, tu vois, tu te mets en communion avec lui, avec la nature, avec l'univers, et si tu veux, tu mets que de l'amour dans ton cœur, tu vides tout ce qui est négatif, toute forme de haine, tu mets que de l'amour. Eh bien, tu te remplis d'amour. Eh bien, je sais pas, mais là, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il s'adresse, il parle à sa manière à lui, il t'envoie des messages qu'on doit recevoir. Tout être humain est apte à recevoir ces messages. Il n'a pas, pour moi, il n'a pas envoyé des messages à des personnages dont on cite les noms, etc., dans les religions, voilà, qui sont pas plus meilleurs ou pires que nous. Ce sont des êtres humains qui ont vécu leur temps, qui ont, se sont fait plaisir comme les autres, qui ont aussi peut-être fauté, peut-être, etc. Enfin, pour moi, tout ça, c'est des légendes, mais ils nous parlent tous les jours à tous, à qui veut l'entendre surtout, à qui sait entendre et lire les signes.
Tu sais, mais c'est très beau ce que tu dis, parce que ça me...
Merci, ton amour.
Non, j'ai pas besoin. Attends, laisse-moi finir.
Vas-y.
Moi, quand tu me dis ça, je partage ton expérience, parce que je suis très dans la méditation et très dans cette intériorité.
Mais je savais ça, c'est pour ça que je t'en parle, parce que ouais, je savais que tu étais comme ça.
Intériorité du vide. Et le vide intérieur, les gens le redoutent. Les gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes.
Ah ouais, c'est vrai.
Je trouve ça déplorable. Ils ont besoin de bruit, des écrans. Enfin, c'est pas le problème. C'est le monde, il est comme ça. On vit dans un... Enfin, mais quand, pour revenir à la beauté et au Graal que tu viens d'évoquer du silence, et c'est une voix intérieure. Et effectivement, tu as raison, parce que je le ressens même moi, cette communication. Et après, quand notre mental ravageur vient nous dévaster avec cet ego qui nous envoie dans tous les sens, on est complètement, tu sais, broyé par la machine, le petit vélo qui tourne en roue. Hein.
Oui,
et j'en reviens au vide. Et c'est vrai, s'il y a une activité de... Là, je vais revenir encore à la pureté, mais bon, c'est vrai que Safia, ça veut dire pur. Hein.
Safia, oui, c'est vrai. Safia,
c'est pur et désintéressé. Ouais.
Safia, c'est la pureté.
Oui, mais ouais, enfin, il y a des intéressements, enfin, c'est, voilà.
Oui, oui. Bah, écoute, tu le portes bien, hein, c'est vraiment... c'est tout toi, vraiment. Comme quoi, les prénoms, hein, parfois. Ah, oui.
Ouais, mais c'est parce que bon, ça me rappelle l'expérience du silence. Et oui, ce silence, donc, quand il est vraiment, tu sais, illuminé en toi, il regroupe une puissance de mais oui. Et de clarté, il y a cette lumière d'amour qui est présente. Il y a aussi ce flamboyant de vérité, mais ça, un cocktail, un mix assez particulier de paix. Il y a aussi là, tu es en paix.
C'est
un déploiement. C'est comme les soufistes. Hein. C'est pour ça que moi, quand il y a des mystiques ou des spirituels,
le soufisme, tiens. Alors ça, le soufisme, tu vois, eh ben j'adhère. Je sais pas, mais c'est, je veux dire, c'est une c'est une notion, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, qui me parle, parce que c'est un peu comme les moines, hein, tu sais, les moines bouddhistes, voilà, etc., qui se recueillent dans le silence, etc., qui sont en silence pendant des jours et des mois, des semaines plutôt, le soufisme, c'est ça, c'est comme les derwiches tourneurs, tu vois. C'est une spiritualité profonde. Les gens, ils pensent que c'est des danseurs. Tiens, ils dansent. Pourquoi ils ont la tête qui tourne ou pas? Mais non, ils ne peuvent pas avoir la tête qui tourne. Parce qu'ils sont vraiment en communion vraiment avec l'univers. Eux le sont réellement, comme le sont les soufis. Voilà.
Voilà
une forme de religion une, en tout cas, qui est vraiment dans la tolérance et dans l'amour. Oui.
Quand tu évoques toutes ces figures de beauté spirituelle, le derviche ou les sœurs aussi en retraite, tous ces priants qui sont à l'ombre justement, et c'est le rééquilibrage de tous les excès du monde.
C'est ça.
Et moi je sais que personnellement, on est en interaction, il y a des énergies qui nous traversent.
Oui, oui.
C'est ce qu'on appelle les communications invisibles.
Oui.
Mais effectivement, c'est vrai que des fois tu vas rencontrer des personnes, elles vont te... faut être vigilant pour le coup, qui vont complètement se décharger de toute leur négativité sur tes pauvres.
Ah, complètement. On est des éponges, hein. Ah
ouais,
oui.
Ouais, malheureusement.
Mais oui.
Et c'est pour ça que, comme tu dis, si tu sais pas te respecter et
te protéger, voilà, c'est important.
Il faut se protéger et après de l'autre côté tout le temps déployer et grandir dans ce mystère intérieur, ces énergies, ces forces qui sont sacrées de spiritualité. Mais ça, moi, je le retrouve dans tout, tu vois.
Oui.
Dans les Adams, bon, tu sais que moi, mon type, c'est les chats.
Ah oui, oui.
Et c'est vrai que tu as de la communication.
C'est fou, hein.
Je veux dire, la communication, des fois, humaine,
Mais complètement.
Moi, je verrouille tout, tu vois, j'en peux
complètement.
Plus.
Complètement. C'est vrai ce que tu dis, toi, tu parles des chats, je te parle des chiens, c'est la même chose. Hein. C'est vrai que les animaux, c'est incroyable. Parce que c'est dommage, hein. Les gens passent, pour ceux qui ne connaissent pas les animaux, qui ne vivent pas avec des animaux, ils passent à côté de quelque chose dans leur vie. Parce que les animaux t'apportent quelque chose de plus, tu vois. Quelque chose
dit,
de
moi, oui. L'expérience des animaux, pardon, la communication, elle est directe, oui. De cœur à cœur.
C'est ça,
Attention, voilà, tu vois. Et ce qu'on n'a pas
c'est
avec
complètement
les humains,
ça.
Parce que les humains, tu vas être, même si tu essayes un peu de dévorer, ils sont dans un mental, ils sont dans une structuration, ils sont en
déclenchant. Mais il y a le matériel aussi, tu vois, il y a le matériel qui fait qu'il faut, ça fausse toutes tes relations. Et en même temps, quand tu communiques avec des humains, eh bien, il n'y a pas d'effort à faire. Donc, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas besoin de trop de réflexion. La communication, elle parle par le langage. Donc, alors qu'avec les animaux, tu fais l'effort, eux le font également, parce qu'on n'a pas le même langage. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus profond, tu vas chercher vraiment très loin, vraiment, c'est le message, tu comprends? Et quand tu le trouves, et quand tu trouves ce fil conducteur qui fait que tu es en communication avec eux, et ça y est, vous êtes sur la même longueur d'onde, tu as atteint un niveau, je veux dire, un niveau supérieur dans ta spiritualité. Moi, je le vis depuis toujours avec mes animaux. C'est juste extraordinaire, vraiment.
C'est de l'ordre du miracle, à mon sens.
Voilà, exactement.
La communication des humains, ça n'a rien à voir.
Non.
La communication des humains, elle est toujours déguisée, biaisée.
C'est ça.
Et après, c'est toujours à toi d'être dans l'angle de trancher la sincérité et de faire le boulot.
C'est vrai. C'est vrai.
Dans l'hypocrisie, dans des conventions à deux balles. Enfin, on s'en fout. Après, moi, je sais que personnellement, moi, les gens qui sont, moi, je me force à cette exigence. Après, les gens qui ont envie de tourner en rond avec eux-mêmes et d'aller nulle part, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, quand j'arrive, j'ai un principe, je suis en transparence, je sais me remettre en cause quand je connais des torts. Et après, comme je dis, il faut aller droit à l'essentiel, et droit à l'essentiel, c'est atteindre ses buts.
Mais oui. Et puis les êtres humains, ils ont un problème d'ego, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il y a qu'il y a des guerres. Hein. De toute façon, il y aura toujours des guerres jusqu'à la fin des temps. C'est l'ego, hein, en fait. Et puis l'ego, et puis je veux dire, tu peux plus, finalement, à un moment donné, pour sauver quelque part un peu ton énergie, sauver ce que t'as de plus cher, de plus riche en toi, c'est-à-dire ton âme. Eh bien, tout à l'heure, je disais par exemple, oh là là, j'ai pas trop le moral, je regardais un petit peu les infos là. J'ai pas l'habitude de regarder, mais là, je regardais, je t'assure, ça m'a foutu le truc là. Alors donc, voilà. Ah oui, alors, les uns, moi, je ne crois plus personne, tu vois ce que je veux dire. Parce que les uns te disent, c'est lui, faut regarder dans sa direction, parce que c'est eux qui ont raison. Les autres te disent, non, machin, etc. Tu vois. Alors, quand on veut tuer son chien, on lui invente la rage. Tu sais plus qui a raison, qui a tort. Et moi, j'ai tendance à aller toujours à contre-courant. Et là, actuellement, je suis, mais vraiment à contre-courant. D'où mes vidéos que je publie sur mes, sur mes murs de Facebook, parce que je ne crois pas du tout toutes les théories là qu'on peut me sortir et tout. Voilà. Je garde pour moi ce que je pense.
Vanessa,
je le dirai après les événements.
Vanessa,
oui, ma chérie, vas-y.
Pardon. Je suis à 100%. J'ai suivi ton positionnement.
Oui.
Je suis encore, on l'a encore. Bon, tu vois, on a deux points communs de.
On en a plein des points communs, Safia. On en a plein, ma chérie.
Deux points communs de ce qui. Tu sais quoi?
Oui.
J'en avais parlé avec ma meilleure amie le week-end d'avant qui ça a claqué le 24. Mais je te jure, la nuit du passage où est-ce qu'il a claqué, le père Vladimir, là. Enfin, moi, je l'attendais au tournant. J'étais sûre que il allait appuyer sur le champignon. Parce que bon, après, dans cette proportion, on est dans une guerre de.
Non, mais je pense pas du tout qu'il appuie sur le champignon. Ça, par contre, c'est. Ça, j'y crois pas du tout.
Attends.
Moi, je ne crois pas du tout. Du tout. Tu sais, moi, tout ce que j'entends, je crois à l'inverse. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair.
Bravo, le contre-courant, être à contre-courant.
Voilà. Moi, il y a une femme que j'aime. Il y a deux femmes. Bravo, les femmes, hein. Tom Saha, hein. Il y a deux femmes. Bravo, en France, on a des femmes magnifiques. C'est pour ça. Ça, c'est les tu sais quoi, c'est les descendantes de comment, c'est l'héritage de d'Olympe de Gouges. Voilà, que pour laquelle j'ai une grande admiration. Hein. Si j'avais fait une thèse, j'aurais fait sur elle. Et alors, il y a comment elle s'appelle, Barbara Lefèvre. Voilà, Barbara Lefèvre. Donc, si vous voulez voir, je l'ai mis sur mon mur de Facebook. Elle est exceptionnelle. Elle a toute une armada de mecs autour d'elle. L'autre spécialiste en je sais pas quoi, enfin rien du tout quoi. L'autre journaliste, l'autre machin, etc. Ils lui rentrent dedans parce qu'ils vont dans le politiquement correct. Elle, elle est complètement à l'inverse et elle dénonce les injustices. Si on veut être juste, on est juste. C'est pas qu'on est pour un tel ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout. C'est, les personnages, on s'en fiche parce que c'est tous les mêmes. De toute façon, c'est tous les mêmes. Voilà. Quand on fait des guerres, c'est qu'on est voilà, on se voue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle dénonce c'est les hypocrisies. Et les deux poids, deux mesures. Et je trouve ça remarquable. Elle, et puis Anne-Laure, je vais trouver son nom. Anne-Laure, je sais plus, ça te dit quelque chose? Anne-Laure, attends. J'en ai parlé cette semaine. Anne-Laure, attends. Attends, c'est Anne-Laure Bonnet, je crois. Attends. Non, non, c'est pas elle. Oh là 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 là.
C'était quoi son message?
Alors, attends, non, mais il faut. Alors, c'était, alors il faut la voir, hein, parce que je peux pas tout dire, hein. Alors, voilà, alors, c'est Anne-Laure Bonnel. Voilà, Anne-Laure Bonnel. Regardez ses vidéos. Parce que elle, depuis 2013, elle est là-bas, en Ukraine. Et, elle a fait un reportage, mais magnifique, remarquable, en 2014, jusqu'à nos jours. Et en 2014, il n'y avait encore rien. Donc, on voit bien que c'est vrai. C'est parce que aujourd'hui, la désinformation, ça va à tout rompre. Elle, voilà. Et elle dit des choses qui, elle est d'ailleurs censurée. Sur beaucoup de chaînes.
Je reviens à toi.
Parce que elle dérange. Voilà.
Vanessa,
oui, ma puce. Oui.
Je reviens à toi. Et tu m'as touchée dans ton approche et d'être en surplomb parce que tu avais encore évoqué le ravage. Tu avais parlé de la fiole, là, quand ils ont envahi l'Irak.
T'as rigolé quand j'ai dit ça.
Excuse-moi, mais là, on est en état de propagande.
Ben oui. Oui, c'est la guerre de l'Irak, l'autre qui nous, parce que je sais pas qui m'envoie un message, on me dit quelle fiole. Non, alors je lui dis. Alors, donc, oui, j'ai cité ça, je l'ai dit aussi sur, dans mes vidéos. Le gars, il nous sort pour nous inventer une guerre, parce que on nous dit, les États-Unis, c'est la plus grande démocratie, etc. La Russie, c'est, oh là là, ça y est, c'est la bête noire, machin, etc. Mais les Américains, non, ils sont toujours justes, les Américains. Comment ils sont justes? Rien que ce qu'ils ont fait à Cuba, qui aujourd'hui ont un embargo depuis les années, depuis Kennedy, eh bien, l'embargo, ils subissent l'embargo, les pauvres malheureux. Je veux dire, quand ils veulent, là-bas, dans leur région à eux, ils ont mis tout le monde au taquet, tu vois. C'est-à-dire que ils mènent tout le monde à la baguette, mexicain, machin, etc. Par contre, les Russes, il faut pas qu'ils bougent. Voilà, voilà. Alors donc, ce qui fait que voilà, cette petite fiole pour tuer un homme qui s'appelait Saddam Hussein. Donc ils nous ont dit que c'était un dictateur. Ben, c'est bizarre, les dictateurs, c'est tous des musulmans et des arabes. Il y a un problème quand même. Donc ils voulaient tuer Saddam Hussein. Ils ont dit on va le tuer, c'est un dictateur. Voilà. Donc l'autre, il nous sort une fiole. Un petit flacon comme ça, et j'étais tellement énervée, c'est vrai, j'ai dit bull time. j'ai dit c'est l'urine de quoi, de sa mère ou quoi. Il nous sort une petite fiole avec on sait pas ce qu'il y a dedans. Tmasrabena, il s'est moqué de nous. Après, il s'est avéré que tout était mensonge, voilà,
oui, invention. Sachant que à l'époque, etc., et même en contre-retour, donc on a effectivement confirmé que c'était du pipeau et de la clarinette.
Ouais, mais pas plus. T'as vu, Safia, ça fait pas plus. Ah oui, c'était du pipeau. Ils ont tué, je sais pas combien de gens. Il y a eu des militaires. J'en ai parlé. Tu m'as entendu hier ou avant-hier. Des femmes militaires américaines, eh bien, qui ont humilié. Des prisonniers, alors que si c'est une démocratie, une vraie démocratie, ça fait quoi? Ça respecte les règles, les lois de guerre, parce qu'il y a des règles dans la guerre. C'est-à-dire que le prisonnier, il a ses droits et le respect, etc. Donc voilà. Eh bien non, la démocratie, les États-Unis, la plus grande démocratie. Quand on a vu ces femmes qui flagellaient, qui ont mis nues, qui ont déshabillé des prisonniers irakiens, qui les ont humiliés avec leur sexe, machin, etc., qui les ont humiliés en leur mettant des bâtons, je vous raconte pas qu'ils fassent la suite, en leur faisant des trucs incroyables. Et voilà, on a vu ça parce que les vidéos ont fuité, tout ça, on a vu la ralée, on a vu aujourd'hui à l'ère du net, etc., donc on voit les choses, hein, d'accord. Donc ce qui fait que ça a fuité, on a vu, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien.
Non, mais
rien. Mais par contre, tout le monde tombe sur la Russie en disant ah non, eux c'est non, nous on est civilisés. Mais tu vois ça, tout ça. C'est pour ça que moi, je ne veux pas avoir moi mon opinion, je la garde pour moi, voilà. Mais je ne ouvertement, si tu veux, je ne soutiendrai jamais ce politiquement correct qui nous dit de faire là où on doit faire, voilà.
Exactement, c'est pour ça que moi mon positionnement il est en surplomb et en toute neutralité et regarder dans l'objectivité les points, les angles morts
où ben oui.
Tout se joue dans la coulisse. Donc et après de l'autre côté, il y a des gens à qui profite le crime. Tu sais quand t'as mis la lumière crue sur à qui profite le crime, après tu peux t'en laver les mains de toute la guerre de propagande, aller manifester.
Ah oui. Les propagandes en ce moment.
Mais après il y a un moment, les peuples s'ils ont envie de se vautrer dans les milliardises et faire n'importe quoi avec leur cerveau et se conditionner à la COVID,
ouais. Leur système. Comme toujours, Safia. Ça a toujours été, les gens.
Ah ouais, mais
malheureusement, on sait ce que ça donne.
Circule dans les dîners mondains quand je vais discuter sur la voie publique. Je dis, je neutralise. Je dis, on va pas discuter trop. Soit on discute de manière crue et directe sur des choses tangibles et palpables. Sans ça, arrêtez de me raconter n'importe quoi.
Safia, on a Samir qui est arrivé, ma chérie. On le prend. Wow. Tu veux lui poser une question?
Ouais, bien sûr.
Génial. Samir, bonjour Samir, bonsoir pardon.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Samir, on papote nos papotes, t'as vu comme on est bavard nous les femmes.
Magnifique, j'étais en train de vous écouter, c'est très intéressant.
C'est gentil, merci d'être là Samir, merci, hein. Vraiment. Voilà.
Ah, écoute, c'est des questions existentialistes, donc oui. On est en plein dedans.
Hein. Oui.
Sous brosseau des conditions humaines, là, on est en train de se poser la question, oui. Pourquoi on est là.
Ben oui, voilà, c'est ça, on se pose des questions et puis on nous replonge à chaque fois dans des situations, tu vois, dont on demande pas aux gens, c'est ça le problème. Les gens font, si tu veux, dans le monde, il y a toujours eu des guerres, c'est vrai, il y a toujours eu des conflits, mais les peuples subissent toujours les conséquences de ceux qui les décident, mais on leur demande jamais leur avis aux peuples, alors qu'ils sont nombreux, on élit des gens pour qu'ils nous demandent si on veut ou pas, quoi, si on y va ou pas. Non, élis-moi, une fois que je suis en place, après je fais ce que je veux. C'est-à-dire, toi, t'as un scut, tu vois, c'est dingue.
Ça a toujours été le cas, Vanessa. Maintenant, pratiquement, il y a un siècle et quelques années que la révolution bolchevique s'est déroulée. Il y avait un besoin de changement, donc on a eu une révolution, donc le communisme, c'était pas la solution adéquate. Et aujourd'hui, un siècle après, on est toujours dans la recherche d'un modèle où les peuples trouveraient un peu leur compte. Parce que là, on est dans l'abus aussi du libéralisme.
Mm-hmm.
Pardon.
Le libéralisme, il avait appris un petit peu du communisme, donc les vacances, les machins, tout ce qui était chômage, etc. Mais le communisme n'a pas appris à rentabiliser un petit peu ses institutions comme le capitalisme. Et là, je pense qu'on est en train d'aller vers un libéralisme débridé qui est en train de laisser sur le carreau des millions de personnes. La réflexion devrait se faire sur ce plan. Hein. Et cette guerre, elle est le résultat immédiat de ça. Les lobbies... qui veulent s'accaparer dans une vision d'enrichissement. C'est une guerre de multinationales aussi, hein. C'est pas de peuple. Hein.
C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, c'est vrai. C'est vrai que...
C'est la cupidité qui fait que l'homme est devenu non plus un animal social, mais un animal asocial.
Ouais, c'est vrai. Safia, pour aller très vite, parce qu'on a plein d'appels, il y a des gens qui attendent. Safia, ta question à Samir, ma chérie, puisqu'il est avec nous, ça tombe bien que tu sois restée jusque-là, Safia. Je te laisse avec Samir.
Très bien. Merci beaucoup de nous honorer de ta présence, déjà, Samir. J'en suis très reconnaissante. Et pareil. Donc, oui.
Pareillement, je suis très content de vous écouter.
Très bien. Donc, je voulais aller sur fixer. Je vais la faire flash, ma question. Je vais l'improviser pour le coup. C'est par rapport, puisqu'on arrive au mois de Ramadan, le mois prochain en l'occurrence. Mmh. D'accord ?
Oui. Ça approche. Oui.
Donc, voilà. Mmh. Dans cette perspective, là, pour Chaben, les recommandations les plus simples et les plus propices pour avoir un bon mois d'apaisement et de bonheur pour Ramadan.
Alors, voilà. La réponse, juste après cette petite pause, ma Safia, ne pars pas. Samir, on revient juste après, on a une petite pause. À tout de suite, merci.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit avec Samir ce soir, nous sommes jeudi. 01 53 48 3000 et Safia avec sa question sur le mois de Ramadan, tu disais Safia. Hein.
Oui,
oui, Safia, vas-y.
C'était l'espace qui nous rapprochait et les préconisations pour Shaban.
Ben, écoutez, d'abord, Shaban, c'est la préparation de Ramadan. Et les meilleures dispositions, c'est d'aider les pauvres à faire face un petit peu à la dépense de Ramadan. Il faut qu'on soit dans un petit peu dans la solidarité, parce que Ramadan, on a un seul repas par jour pratiquement, et les gens sont vraiment éreintés par les dépenses. Et il faudra faire les sadaqa, il faut aider les pauvres. Moi, je pense que d'abord, il y a le volet spirituel, et puis il y a le volet un petit peu dogmatique. Nous sommes montrés dans la sadaqa avant de commencer Siyar. Je pense que aider un pauvre à faire face donc aux dépenses de Ramadan, je pense qu'il n'y a pas mieux comme prédisposition le Ramadan, Inch'Allah.
Inch'Allah. Très bien. Oui. Message reçu.
En solidarité.
Eh ben voilà, Safia, tu as eu ta réponse. Je t'embrasse,
merci beaucoup,
Safia.
Rita.
Merci, ma puce. Oh, reviens vite. Bisous. À bientôt. Très intéressant, toujours, Safia. Samir, n'est-ce pas? Hein, c'est vrai que Safia, elle a toujours des interventions de qualité.
Ah, elle est d'une sensibilité extrême.
On a Mourad qui nous appelle de Bobigny. Bonsoir Mourad. Mourad, la radio, Mourad.
Bonsoir.
Bonsoir Mourad, la radio.
Bonsoir Vanessa.
Bienvenue. Ah, c'est bien. Bienvenue Mourad.
Merci. Bienvenue toi aussi sur mon téléphone.
Ah ouais, téléphone, dis donc. Hein. Ah ouais, je suis un peu à l'étroit là, dans ton téléphone. Alors, on est avec Samir, Mourad.
Ben, j'aimerais poser. Bonjour Samir.
Bonjour Mourad.
Bonjour Samir. Ben, j'aimerais te poser une question. En fait, deux questions. Un jour, tu parlais avec Vanessa de la reine Kaina.
Oui.
Allô?
Oui, on t'entend.
J'écoute. Ouais.
Bon, et ben, je me souviens plus d'exactement de quoi vous parlez. Mais ce que je me rappelle, et ça m'a fait quelque chose, parce que vous dites, Samir, je crois que tu as dit que c'est une grande dame, en fait, il y a eu un petit élage, quoi, de sa part, quoi, vous voyez.
Mais tout le monde est d'accord pour parler de cette manière de la Kaina. La Kaina qui a été quand même un personnage, oui. Historique, oui, pardon.
Oui, mais elle n'a pas fait que du bien, je crois. Elle avait des esclaves. Elle avait des esclaves, la reine Kaina.
Oui, probablement.
Peut-être, mais personne n'a été voir, je sais pas.
Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit que. Et la personne qui m'a dit ça, elle se prenait un peu. Elle m'a dit que c'était à l'époque de l'esclavage. Hein,
Écoute, quand on peut pas vérifier, parce que on m'a dit, moi aussi, on me dit beaucoup de choses, si tu savais. Mais quand on peut pas vérifier, on n'a pas la source, on peut pas porter de jugement non, comme
mais
ça.
Mais
quand on parle de la Kaina, c'est comme quand on parle, par exemple, tu parles d'un autre personnage, on est tous faits de contradictions, nous les humains. On n'est pas tous. Il y a aucun humain, à part Dieu, comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun humain qui est parfait. Même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait qu'il n'était pas parfait. Lui disait. Donc, rectifie-moi si je me trompe, Samir. Donc, je pense que tout être humain étant imparfait, on ne peut pas savoir les défauts des gens. Mais là, on parle. On dit pas que c'était une sainte. Hein. Attention, hein. On n'a pas dit c'est une sainte. Dieu a parlé avec elle, c'est la Sainte Vierge. Non, on a parlé d'une grande dame qui a comme les femmes de la révolution algérienne dont j'ai parlé cette semaine, et j'ai parlé de Nan Sommer, j'ai parlé de, comment elle s'appelle, Kna Kaina, et j'ai parlé de Hassiba Ben Bouali, de Zora Drif, de toutes ces grandes dames qui ont fait la révolution algérienne. C'est-à-dire que c'était des femmes courageuses qui ont combattu contre l'injustice, contre les invasions.
Oui, mais Vanessa.
C'est ça
Vanessa,
qu'on parle. On dit pas c'est une sainte, on s'en fout de ce qu'elle a fait. Mais n'empêche, mais on dit c'était une battante, voilà, une guerrière, voilà, c'est ça.
Oui, Vanessa.
Oui.
Sauf que tu es, je pense que tu es un petit peu dans l'erreur. parce que je veux bien que tu penses que c'est une grande dame.
Mais c'est, non, si, je dis c'était une guerrière. Est-ce que tu comprends? Une grande dame, j'en sais rien. C'était une guerrière. C'est une femme qui, en son temps, eh ben, elle avait du courage. Hein. Peu d'hommes ont du courage. C'est comme Jeanne d'Arc. Il y a peu d'hommes qui ont du courage de prendre les armes et de se battre pour son pays ou sa région. Ben, je trouve ça, voilà.
Oui, mais...
comme Olympe de Gouges.
La dernière fois, ça, je suis sûr, toi et...
oui, et alors nous, oui, oui.
Eh ben, moi, j'ai pensé à qui? J'ai pensé direct à Adolf Hitler. C'est comme si quelqu'un disait que Adolf Hitler, c'est un grand monsieur.
Attends, pour toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches à Kaina? Est-ce que tu reproches juste ses origines?
Moi, je m'en fous, je reproche rien du tout.
Qu'est-ce que tu reproches ses origines? Parce que là, on est en train de faire du régionalisme avec toi.
Non, c'est pas ses origines.
Parce que, attends, comment?
Non, je te laisse pas parler.
Parce que comment tu oses quand même, il faut le faire, hein, comparer à un monstre, une femme qui a laissé quand même son nom dans l'histoire de toute une région.
Et c'est tout. Si toi,
tu veux. Et peut-être ton nom.
Qui était propriétaire d'esclaves, c'est pas un monstre.
Non, c'est toi qui as inventé cette histoire qu'elle avait. D'où je sais, moi.
Est-ce que
ton ancêtre, il avait pas d'esclave? Peut-être que mon ancêtre à moi, que je ne connais pas.
Mon ancêtre avait des esclaves, il a fait un monstre.
Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais c'est toi qui invente une histoire. Cette femme. Kaina. Elle est reconnue pour avoir combattu l'envahisseur.
Tu sais qui m'a dit ça? C'est un Kabyle, s'il te plaît. Au nom de Dieu.
Et alors, si le Kabyle n'est pas parfait.
Il a 50 ans, c'est pas un enfant. Il a 50 ans, il m'a dit que la reine Kaina, c'est deux
divinités. Parce qu'un homme, un seul, t'a dit ça, ça y est, t'as pris ça pour argent comptant. Pourquoi tu vas pas à la source?
Mais non. c'est pas grave, tranquille.
Non, pourquoi tu vas pas à la source chercher?
C'est ciblé.
Oui, mais c'est ciblé. Pour moi, c'est ciblé. Mais vas-y. C'est intolérable de la comparer à ce monstre de l'histoire quand même. C'est pas bien ce que tu as fait. Voilà.
Mais madame, des monstres, il y en a plein, hein, vous savez.
Non, mais ce monstre. Non. Celui-là, c'est le plus grand des monstres.
Madame, vous savez, celui-là qui a décrété le code noir. Ça veut dire que le noir. On peut le traiter comme on veut, c'est
mais, une mais on est ce soir dans les comparaisons.
Il y a sa statue à l'Élysée.
Non mais attends.
Dans l'Élysée, il y a sa statue.
Attends. Ce soir, on est vraiment dans les comparaisons, dans les là tu es parti d'une femme qui était une guerrière qui a défendu parce qu'il y a peu d'hommes qui l'auraient fait.
Oui, mais madame, pour une femme. Non. Des mauvaises choses,
tu
madame.
N'en sais rien. Il y a un bonhomme qui est venu, il a 50 ans. Il t'a dit elle avait des esclaves, tu es venu nous rapporter ce soir. C'est incroyable. C'est un historien. C'est qui cet homme? C'est un historien? Qu'est-ce qu'il a comme bagage? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait comme étude?
Non, mais c'est pas grave, on va pas discuter pour ça.
Les rumeurs, les ragots, c'est pas beau. Voilà.
J'aurais voulu savoir sa mère ce qu'il dit, mais bon, c'est pas grave. La deuxième question, je voulais demander à Samir, parce qu'il parle beaucoup de. Et toi, avec Vanessa, de terroristes, tout ça. J'ai remarqué, vous avez beaucoup de sujets où ça parle de terroristes, que c'est ces gens-là, c'est des fous, tout ça, c'est des malades. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais se demander à Samir, qu'est-ce qu'il pense du conflit là en ce moment en Ukraine?
Je vais te dire une chose. Samir n'est pas là pour parler du conflit en Ukraine. Moi, je n'ai pas ici. Alors moi, je cadre cette émission. Pourquoi? Parce que si je voulais qu'on parle du conflit qui a lieu là-bas, là où ça se passe, j'aurais invité bien des intervenants qui sont spécialisés dans la politique et dans ce domaine-là. Non, Mourad, tu vas pas m'avoir sur ce chemin-là. Je vais te dire une chose. Moi, cette émission, elle est pas politique. On survole, on peut parler de plein de choses. Voilà, des fois, on se donne son avis, machin, etc., sur plein de trucs. Mais je n'ai pas d'invité politique. Quand tu veux poser ce genre de questions, tu appelles Adil Farkan, qui est journaliste ici, et il a des invités, justement, qui, eux, ont les réponses.
Mais toi, tout à l'heure, Vanessa, t'as bien voilà. parlé, je trouve. Hein. Moi, je trouve que t'as bien parlé à la fille, là. Tu lui as dit que et tout ce qu'ils ont fait en Irak, tout ce qu'ils ont fait
oui,
maintenant...
Oui, mais j'en ai parlé dans le sens vraiment social, où ces peuples avaient souffert, etc. Et puis on a parlé de quelque chose qui était flagrant, cette petite fiole, tout le monde sait que c'était un mensonge. Mais par contre, là, pour l'instant, cet événement est quelque chose de délicat. On n'en est pas encore arrivé à la fin.
Ben, en tout cas,
voilà.
Ok, j'ai compris. Ben, en tout cas,
voilà.
Moi, c'était juste pour...
Donc, tu peux poser une question, par exemple, comme l'a fait notre amie Safia, d'histoire ou de théologie, voilà. Parce que okay, on est à la veille du mois de Ramadan, vous pouvez parler, par exemple.
J'ai une question.
Alors, vas-y.
J'ai une question à Samir. Un jour, toi, à Vanessa, tu as dit que...
Mais c'est incroyable, t'es venu faire le procès des gens. Mais pose une question théologique.
C'est sur la religion.
C'est incroyable, oui. Alors vas-y, toi t'as dit. Non, c'est pas une question, toi t'as dit.
Non, mais écoute-moi, et Samir, lui, il t'a validé. Tu as dit que la première religion, c'est la religion monothéiste. Les trois religions monothéistes.
Non, on n'a pas dit, on n'a jamais dit ça, parce qu'il y avait d'autres religions avant. Les religions monothéistes, c'est pas les premières.
Tu as dit que la première des religions monothéistes, c'est la religion juive.
Oui.
Après, c'est la religion chrétienne.
Oui.
Après, c'est la religion musulmane.
Oui, chronologiquement parlant, j'ai rien inventé. Hein, on sait bien que le judaïsme, le christianisme et l'islam qui est arrivé en troisième position, oui, effectivement.
Il n'y a pas de problème. Et Samir, je me rappelle, qui t'a validé.
Bah oui,
pour moi, c'est une fausse.
Ah bon, t'en as une autre? Ah, on a un scoop ce soir, on a un scoop. C'est laquelle? Alors vas-y, c'est laquelle la première?
La première des religions monothéistes, ça vient d'Égypte. Ça vient pas du judaïsme, ça vient d'Égypte. Et j'ai oublié le.
Ah, mais t'as pas
Akhenaton.
Akhenaton, il te dit.
Akhenaton, voilà, merci. Voilà, merci.
Oui,
merci.
Mais les révélations, les livres, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux lui expliquer, Samir, s'il te plaît, pourquoi on fait la distinction entre les trois dernières?
Madame,
on peut laisser Samir te répondre.
Attendez, madame, je finis juste une phrase.
C'est incroyable.
Vous savez que, par exemple, je donne un exemple. Le ramadan que pratiquent les musulmans et le jeûne que pratiquent les chrétiens, en Égypte, ils pratiquaient le jeûne de 44 jours. Donc, il y a plein de pratiques que les musulmans font et que les chrétiens font. L'Égypte le faisait déjà parce que l'Égypte, ils ont planté des graines de blé et ils ont vu que 44 jours après, ça a germé. Alors, ils se sont dit, c'est un don de Dieu et pour cela, ils vont jeûner 44 jours.
D'accord, c'est bien. Alors, est-ce qu'il peut te répondre, Samir, pourquoi?
Attendez, je vous dis juste un autre truc.
Ouais.
Osiris, par exemple, il avait 12 apôtres.
Mmh.
Il avait 12 apôtres, Osiris. Jésus, là, dans la Bible, on dit que Jésus avait 12 apôtres. Et dans une pyramide, il y a écrit quelque chose, et c'est le même verset qu'on trouve dans un des versets de la Bible. Vous trouvez pas ça bizarre? Et l'empire égyptienne date de je sais pas combien de temps avant la Bible, parce que la Bible n'existait pas encore. Alors comment on peut expliquer ça? C'est une question que j'ai à Samir, que je pose à Samir.
Oui. Allô?
Oui. Samir, oui.
Écoute, quand on avait parlé donc des religions révélées donc du livre, les trois religions sont dans l'ordre, bien évidemment. Parler de monothéisme, c'est croire en un seul Dieu, qu'il soit celui des livres ou pas. Quand parler d'un seul Dieu, donc unifier la divinité, ça s'appelle le monothéisme. Là, tu confonds entre les monothéismes de la révélation des livres et le monothéisme qui est à part. Akhenaton croyait en un seul Dieu, donc il a unifié un seul Dieu, et ça ne fait pas de lui une révélation du livre. Par contre, il y avait un héritage de la descendance d'Abraham qui remonte à peu près à 5000 ans, qui a laissé un héritage. Donc le jeûne a existé même chez les hindouistes.
Ouais,
les hindouistes. Et je te signale que Krishna, donc la déesse qui était la mère de Shiva,
oui,
a eu aussi 12 apôtres.
D'accord.
Le chiffre 12 a toujours été un chiffre magique dans l'Antiquité. ça ne fait pas une analogie ou un copiage. Hein, ça ne fait pas un copiage. Par contre, d'accord, ça vient. Le monothéisme a existé, même avec les zoroastriens, avant le judaïsme.
Bah alors, Samir, oui. quand le... Comment on dit ça, là le, la personne qui vous accueille en Égypte, c'est un Égyptien, c'est un Arabe, pour visiter les tours pyramides. Je sais oui. plus comment...
Un guide comment, tu parles d'un guide.
Un guide, ben là, merci, un guide. Exactement. Ouais, un guide ouais. Quand il dit que le commencement des religions monothéistes est ici, alors il se trompe, alors.
Ben non, ben écoute, c'est un guide, hein, c'est pas non plus...
je crois que tu puises...
Non, mais il connaît
attends,
l'histoire tu... quand même, c'est mais, un guide, mais il
mais
connaît...
Mais non, mais attends, tu, je, oui, mais enfin, c'est un guide qui pas est censé, je veux dire... voilà, enfin, on sait ce que c'est, quoi, c'est un peu commercial. Mourad, arrête tes sources, elles sont...
Mourad, vas-y. Ça vient de l'Inde, ça vient de l'Inde, c'est plus ancien que l'Égypte.
C'est quoi qui est plus ancien que l'Égypte?
Ben, le monothéisme Gonindus, c'était plus ancien que l'Égypte, donc lui, il peut vendre bien ses parasols et ses bibelots. Mais je te dis que le monothéisme, plus on revient dans le passé, plus on en trouve. L'Indus, c'est la civilisation indienne à ses prémices. Donc le long du fleuve Indus, c'est la première civilisation
le fleuve Indus.
Et Babylone aussi. Mmh.
L'Indus, d'accord.
Donc effectivement, oui. En Égypte, il y a eu le monothéisme, qui est d'ailleurs passé une période, après il a redisparu, après Akhenaton, et ce n'était pas les prémices. Bon, chacun tire à la couverture à lui, quoi. Si on va à Babylone aussi, les Juifs, ils sont inspirés de beaucoup de mythologies de babyloniennes, quand ils ont été déportés à Babylone, parce qu'il y a eu deux déportations. Donc celle de Babylone a influencé énormément. La Genèse est venue en partie de Babylone. Les textes de la Genèse. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu un croisement des histoires des religions, parce que les hommes adorent les mythes. Ils ne veulent pas adorer, ils veulent pas abandonner les mythes qu'ils adorent.
Les mythes.
Donc, ils se sont appliqués un petit peu même dans l'islam. Il ne faut pas croire. On a des mythes qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des mythes païens.
Oui.
Mais ce n'est pas dans le Coran, c'est plus dans le Hadith. Et c'est la même chose dans le Talmud. Et donc... Et les Romains se sont appliqués à garder quatre évangiles et les autres ont été déclarés apocryphes. Donc il y a eu beaucoup de mythes fondateurs qui venaient de Babylone, même en islam. Hein.
D'accord. Donc, mais Samir...
Rien n'est blanc, rien n'est noir. Regardez juste qu'il y a un Dieu qui a créé un petit peu l'impulsion de la vie et qu'on lui doit un petit peu obéissance et donc bonne moralité. Mais après, les textes, ce ne sont que des nuances. Hein. Qui s'adapte au contexte. Je parle même de l'esclavage. Aucune des trois religions n'interdit l'esclavage.
C'est ça, exactement.
Elle a incité à abandonner l'esclavage, mais pas une interdiction formelle.
Oui.
Donc, avoir des esclaves à l'époque dans l'Antiquité n'était pas si mauvais que ça. Les Romains qui ont fait les lois actuelles de la République n'interdisaient pas l'esclavage, ils avaient des esclaves.
Oui.
Mais la définition d'esclave changeait d'un peuple à un autre. On pouvait avoir un esclave qui était bien traité, qui avait un salaire, etc., mais qui n'avait pas de liberté. On avait des esclaves dans certaines civilisations, on avait droit de vie ou de mort sur eux. Là, ça change.
Mais toi, Samir, tu as dit que toutes les religions ont interdit l'esclavage.
Non, il n'a pas dit ça.
Non,
il a dit le contraire.
Il a dit l'inverse.
Il a d'accord, dit aucune interdisait l'esclavage, puisqu'on
ils sont cités.
Non, c'était. C'est ça.
Mourad, l'islam, ils ont interdit l'esclavage à l'époque de le prophète.
Ils ont interdit, ils ont incité à abandonner l'esclavage sans interdiction.
C'est pas de l'interdiction. Oui. Puisque dans le Coran, on parle d'esclaves. Et quand on parle des femmes, moi je l'ai lu aussi, hein. Quand on parle des femmes, concernant les relations sexuelles, j'ai bien lu de mes yeux, où y a un chapitre à un moment donné, où on dit, vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles avec vos esclaves, entre vos femmes, et vos femmes esclaves. Je l'ai
Vanessa,
lu. Oui, Mourad.
Vanessa, tu vois, s'il y a 20 personnes, tu rentres chez une famille, ils sont 20 personnes.
Oui.
Et les 20, ils fument la cigarette.
Oui.
Tous. Et toi, t'as un objectif, c'est de les faire arrêter de fumer. Tu peux pas les forcer directement à aller direct. Il faut y aller tout doucement.
Absolument.
Enfin, j'ai un autre avis là-dessus parce que je ne compare pas du tout. comment dire, ni l'esclavage. Et l'esclavage, pour moi, c'est la traite d'êtres humains vivants avec la cigarette. Non, du tout. Par exemple, si moi j'ai envie de fumer et que ça me fait du mal à moi, jusqu'à me rendre malade, c'est de moi, mon propre chef, c'est moi qui ai choisi. C'est ma liberté. Tu comprends ce que je veux dire? Ma liberté. Alors que une personne qu'on soumet à l'esclavage, qu'on réduit à l'état d'un animal presque, parce que une bête de somme, on la frappe pour qu'elle avance. Donc un être humain, on lui fait la même chose pour qu'il travaille, sinon on le bat, etc. Eh bien, pour moi, eh bien, c'est incomparable. On peut pas comparer de réduire à l'état de rien du tout, vraiment de soumission, d'esclavage, un être vivant comme moi, et le fait de mon propre chef, si j'ai envie de fumer, ça ne regarde que moi, c'est voilà. Ça, c'est la liberté. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de liberté de choix. Tu comprends? Donc, ton choix, il est caduc. On n'est pas d'accord du tout, Mourad. Vraiment, sur toute la longueur d'onde. Voilà, c'est tout. Alors, on a une pause. Samir, on a une petite pause là tout de suite. Hein. Mourad, ben, écoute, je suis obligée de te dire au revoir parce qu'on a beaucoup de monde. T'as pris beaucoup de temps. Hein. Voilà, alors, donc, une petite pause et on revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit, il reste de la place. Hein. Allez, venez, posez vos questions à Samir. Au 01 53 48 3000, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir Samir avec nous. Samir qui est là, on a Fatima, la philosophe. Ah oui, carrément, la philosophe avec nous. Bonsoir Fatima. Ah, il y a Zara juste après, je vois. Bonsoir ma Fatima.
Ça va, Vanessa?
Ah oui, très bien. Quand je t'entends, je vais bien.
D'accord. Bonsoir, monsieur Samir.
Bonsoir, Fatima. Comment tu vas?
Ça va, je vous remercie, monsieur Samir. En fait, monsieur Samir, je pense avec l'auditeur Mourad, nous n'avons pas la même oreille.
Il écoute l'inverse, ce qu'on dit à chaque
fois. Incroyable.
Je te jure l'inverse.
À chaque fois que vous pensez, que vous passez à l'antenne avec Vanessa, vous dites il faut distinguer la religion, les religions monothéistes, les trois livres, avec les religions d'antan des monothéistes.
Tout à fait.
C'est vrai, il l'a toujours dit.
Vous avez même parlé du mazdéisme aussi.
Ouais. Oui. Absolument.
Oui, on en a parlé, on a fait toute une émission avec Vanessa.
C'est vrai,
parce que le monothéisme, il a existé dans l'hindouisme, dans la Grèce antique, la Perse antique.
Absolument, c'est une conception. Hein. C'est une conception qui existait dans avant les livres révélés. Bien sûr qu'il y avait Abraham, Oui, donc ils ont laissé un petit peu de traces. Mais
oui, en fait, comme vous dites, ils se sont inspirés, mais à distinguer avec les livres saints, quoi. La Torah, la Bible, le Coran.
Ah oui, absolument.
C'est ce que vous dites incessamment.
Oui, on l'a redit plusieurs fois, on a parlé de...
Oui.
On a parlé de l'Indus, etc.
En tout cas, moi, j'ai la bonne oreille.
Ben, oui, c'est clair. Hein.
Là, pour le coup. Et d'autres auditeurs aussi. Vanessa, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de poser une question d'histoire à M. Samir.
Mais fais ce que tu veux, Fatima. Mais oui, ma chérie.
C'est gentil. M. Samir, je voulais connaître votre point de vue sur la bombe atomique qui fait peur.
Ah oui.
Et qu'ils ont froid au dos. Je ne sais pas, monsieur Samir, la bombe atomique, elle est un peu partout, au Pakistan, en Inde. Et moi, ce qui me fait peur, monsieur Samir, c'est que quelqu'un prenne une décision aveugle comme ça et appuie sur le bouton.
Oui, alors comme disait certains, dont Einstein disait que la science en conscience, c'est la ruine de l'âme. Nous sommes en train de développer des médicaments, on développe énormément de technologies, on développe aussi des moyens de nous détruire nous-mêmes.
Détruire l'humanité directement avec la bombe atomique.
On peut détruire la planète au moins 20 fois.
Oui.
Avec ce qu'il y a comme arsenal.
Oui. C'est toute l'humanité, monsieur. Je ne sais pas, il faut quand même du bon sens et de la raison pour tous ces décideurs qu'ils abolissent, qu'ils détruisent toutes ces bombes atomiques, quoi.
Ben, ça a commencé un petit peu, mais l'ego, Vanessa en parlait à l'époque, donc l'animal humain qui n'est plus sociable, mais qui est devenu asocial, et oui. Il veut le pouvoir, l'argent, etc., les minerais, etc. Donc la rivalité fait que même si on fait des conventions pour arrêter, on triche. Tout le monde veut devenir fort et ne veut pas être attaqué aussi.
Oui, mais monsieur, Samir, la bombe atomique n'a plus rien à voir avec les armes biologiques, bactériologiques, c'est différent tout ça.
Ah, c'est impulsionnel, c'est rapidement,
fou.
On
disparaît c'est fou.
D'un seul coup.
C'est fou parce que actuellement, je t'écoute hein, Fatima, et j'entends aussi ton inquiétude. J'entends comme on l'entend partout. Oui. Et en ce moment, actuellement, c'est le sujet de conversation générale. Les gens ne parlent que de ça parce qu'ils ont peur.
Ne veut rien dire, il peut pas être
Et les gens ont peur, hein, vraiment.
Dans la tête d'un dirigeant.
Les gens ont peur. Les gens ont beaucoup peur, mais enfin, moi, personnellement, je pense pas. Je pense pas qu'elles soient utilisées parce que, bon, ils sont pas. Voilà. On n'est pas encore arrivé à ce stade.
On ne peut pas être à la place de quelqu'un qui va prendre une décision aveugle.
D'autant plus qu'ils ont développé la bombe atomique tactique qui ne touche qu'une petite zone. Et là, il serait
pas
utilisé pour... Oui, donc elle n'est pas stratégique, elle est tactique. Et là, ça pourrait être compté donc, pour un client. C'est parce qu'on joue au gorille. On se tape un petit peu la poitrine pour montrer qui est plus fort.
C'est ça,
mais
oh là là.
Tout ça,
c'est tellement
l'humanité
vrai.
Est la seule victime de ce comportement. Je dis bien l'humanité, qu'elle soit blonde ou brune, pas contrairement à ce qui se fait un petit peu dans les frontières pour les réfugiés. Les êtres humains paieront l'addition, quelle que soit leur race et leur origine.
En tout cas, monsieur Samir, on est toujours dans la caverne de Platon. L'homme ne connaît toujours pas ses limites, quoi.
Alors, Fatima, on va pas être d'accord. Tu ne me piques pas mon allégorie. C'est la mienne. Je la sors à toutes les sauces, celle-là.
Oui,
hein.
Oui.
J'adore. Fatima, ma chérie, j'adore cette allégorie parce qu'elle est tellement... Oui. Elle restera toujours d'actualité jusqu'à la fin des temps. Oui. Il y en a, ils sortiront jamais de la caverne.
Même avec la bombe atomique, je vous assure, elle a la réponse. Parce que l'homme ne connaît pas ses limites. Il ne fait que parler l'au-delà alors qu'il ne fait pas un travail sur lui-même.
Ben oui. Il va chercher ailleurs ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, mon Dieu.
D'accord.
Fatima, tu pars pas. Non, tu ne pars pas. Non, Fatima. Fatima,
merci
elle n'entend pas.
Pour votre belle émission, Vanessa.
Fatima, tu peux rester.
Ah, c'est nous qui vous remercions, Fatima.
Fatima,
non,
c'est bon
c'est...
Si tu peux rester, hein, vraiment, c'est une autre question.
Merci beaucoup, M. Samir.
Bon, Fatima, on t'embrasse fort, ma chérie. Elle est adorable.
Hein. D'accord. Au revoir, Vanessa. Bon courage.
Merci à toi aussi. Elle est adorable, Fatima.
Magnifique.
Fatima, elle est tout en profondeur, mais c'est une femme très, très, très cultivée. Elle était professeure, Fatima. Elle est très cultivée. Elle est toujours en quête de connaissances. Elle lit comme elle respire, quoi. Voilà. On voit le résultat. Samir, on a une petite pause, là. Tu sais comment que ça se passe, c'est de la radio. Donc, un petit son, hein. Voilà.
OK.
Et puis, on revient juste après. On a Zara de Romorantin juste après. Et les autres, on se réveille, Samir est là jusqu'à minuit. Allez, 01 53 48 3000, à tout de suite. Chabrel, on se lasse jamais de cette voix, mais alors... Oh là là, c'est vrai que moi, elle me fait vibrer sa voix. Hein. Et puis cette chanson particulièrement, je l'adore, voilà. Et elle est mia. Magnifique, de toute façon, elles sont toutes belles ces chansons, hein, Chabrel, voilà. 01 53 48 3000, Samir est toujours avec nous, Samir bien sûr. Alors je vais faire une big dédicace à Hassan, alors beaucoup le connaissent, hein. Hassan le pharmacien de Saint-Denis, voilà, pharmacien de Saint-Denis, il a le cœur sur la main, le bien qu'il fait Hassan, Vraiment, moi j'adore ce garçon, hein, vraiment. Il fait de belles choses, il a fait... Il a cheminé à l'époque, tu sais, Samir, il y a une maladie, je n'ai pas retenu parce que c'est un nom à rallonge, trop long pour, voilà, c'est le nom scientifique, il n'y a pas d'autre nom plus court, raccourci. Et donc, c'est une maladie rare, très 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 rare, vraiment. Orpheline. Là, ah oui, là pour le coup, elle est vraiment orpheline. Concernant les enfants, jusqu'à l'âge, je ne sais plus, enfin voilà. Et ces enfants, très tôt, eh bien, depuis leur naissance, il leur faut une nourriture spéciale, c'est-à-dire une nourriture qui est démunie de beaucoup de substances, plein de substances qui se trouvent dans toutes les nourritures, voilà. Et donc, si l'une d'elles, est présente. Eh bien, ces enfants peuvent en mourir parce que ça attaque leur cerveau et tout le reste. Donc, c'est vraiment une maladie très rare, mais une maladie hyper dangereuse, vraiment très grave. Heureusement que c'est pas une maladie, disons, commune. Hein, mais ceci dit, ces enfants qui sont en Algérie, eh bien, un peu dispatchés comme ça, dispersés sur le territoire. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont suffisamment nombreux pour les sauver, parce que beaucoup mouraient, justement beaucoup de ces enfants mouraient, on savait pas, on disait ils sont morts, etc. Puis on a découvert que c'était à cause de cette maladie. Il fallait pas qu'ils mangent certaines substances. Alors dans tout, hein, dans le pain, dans tout, tu trouves dans tout. Voilà, dans tout ce qu'on mange. Voilà. Alors donc ce qui les fruits et tout. Alors la science a trouvé que, mais bon, on se penche pas trop non plus parce que c'est maladie orpheline. Alors on leur fabrique on leur fabrique leur propre alimentation. Il faut qu'ils mangent que cela. Donc ça se fait en laboratoire et ces enfants ne peuvent manger que ces aliments préparés dont on a retiré toutes ces substances nocives qui peuvent nuire à leur santé et puis à leur vie. Donc c'est très délicat. Alors, donc ils ont tout le repas complet, c'est un peu spécial. Et lui, pour les petits enfants algériens, il commande. Il a monté une société en parallèle de sa pharmacie pour fabriquer, pour acheter ses repas spéciaux pour ses enfants. Et il les achemine là-bas. À un moment donné, il avait même des difficultés au niveau de la douane et tout. On avait parlé. Et donc, par la suite, après, bon, il a pu enfin faire son... Voilà. Et il dispatchait ça à ses enfants. Il est, voilà, jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge, je ne sais plus quel âge, 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Enfin, ils pouvaient... ils étaient sauvés, quoi. Et lui, Hassan, il a sauvé des milliers d'enfants. Samir, tu te rends compte?
C'est magnifique.
C'est beau, hein.
Vanessa.
Comment?
Ça doit être le lait enfantin sans lactose. Parce
non, pas le lactose. C'est-à-dire, même dans le manger, non. C'est-à-dire que dans le pain, il m'a expliqué, dans le pain, dans les fruits, dans les légumes, dans tout, quoi, dans tout ce qu'on peut manger. Voilà, tout ce que tu peux imaginer comme aliment, eh ben, il y a cette substance, elle est dedans. Par exemple, on va dire... il y a du sucre, du sel, machin. Il y a tout ça. Il faut tout retirer. Il faut vraiment complètement dénaturer le produit et lui laisser vraiment le minima, quoi. Tu vois, c'est dans tous les produits que tu peux imaginer. Tout. Hein. C'est pas que les produits laitiers. Non, du tout. C'est ça qui est... Moi, quand tu m'as expliqué, c'était vraiment... Oui, elle est pas connue, cette maladie. Elle est très, très, très rare. Moi, quand tu m'as dit le nom, voilà, elle est vraiment à rallonge. Hein. Et Hassan... a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et moi, une fois, j'avais une personne qui avait besoin d'un médicament pour qu'elle, parce qu'elle était... on m'a appelé, on m'a dit, voilà, une personne, telle ville d'Algérie, avait besoin d'un médicament parce qu'elle prenait de la chimio, elle avait un cancer. Et la chimio lui brûlait de l'intérieur, lui ravageait, elle faisait des effets secondaires très graves, la pauvre, et puis elle ne pouvait pas se passer de la chimio. Ben oui. Le cercle vicieux. Et j'en ai parlé, donc lui, il lui a trouvé ce médicament que lui-même a acheminé là-bas, il l'a fait ramener par des personnes, etc. Enfin, C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je voulais lui rendre hommage à Samir. Il est de ta région d'ailleurs. Il est de ta région, comme ça tu sais. Pardon ?
Ah bah mérité. Franchement, ceux qui se dévouent pour l'humanité, il y en a de moins en moins. Ouais. Ils sont de plus en plus admirables parce que les malheurs s'accentuent et ils gonflent. On ne sait pas comment, on ne sait plus où donner de la tête avec les misères et maintenant les guerres. La famine, le monde, les tempêtes, mais le climat aussi qui va créer aussi des millions de misérables.
Ah oui, et d'exilés, hein, ça va le faire.
Franchement, c'est Hassan, on en a besoin.
Voilà, Hassan. Il m'a envoyé un message parce qu'il m'a dit qu'il était à l'écoute. Je t'embrasse très fort, Hassan, tu vois. Un hommage pour toi.
Pareillement. bravo. Merci beaucoup.
Alors, Samir. On a parlé avant de prendre Zara, notre fidèle auditrice. Les autres, on se réveille. Allez, je voudrais que tu, justement, il a évoqué tout à l'heure Mourad le polémiste. Mais bon, il en faut de temps en temps. Donc Mourad, il a parlé de Kaina. Bon, moi, je me suis un petit peu emportée parce que je défends les femmes. Et puis on est le 10 mars. Avant-hier, nous étions le 8 mars. Donc c'est plutôt un hommage qu'on devrait leur rendre, surtout à ces femmes guerrières. Tu sais, avant-hier, j'ai rendu hommage et demandé à ce qu'on fasse un hommage, vraiment, à toutes les femmes, les moudjahidettes algériennes.
Il y en a.
Donc,
il y en a beaucoup.
Exactement. Donc, je voulais qu'on leur rende hommage, parce que je voulais pas... Et puis, il y a aussi celles qui étaient dans l'anonymat, hein, dans les montagnes, et qui nourrissaient les moudjahidines, et qui, le lendemain... avaient droit à toutes les tortures parce que ça se savait, parce qu'il y avait aussi ceux qui allaient donner les informations, hein, je vais pas dire qui, mais bon, donner les informations aux militaires, et donc elles se faisaient, les pauvres, elles ont tout subi, hein, les viols, tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, toutes ces femmes, anonymes et pas, eh bien, je voulais leur rendre hommage à ces Algériennes, c'est ce que j'ai fait 2 heures d'émission avant-hier. Alors, Kaina fait partie de ces femmes remarquables qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Donc je voulais que tu nous parles de Kaina un petit peu avant de prendre Zara. Et on va t'écouter parce que je sais que tu as des tu vas nous donner quelques quelques petites choses comme ça, voilà.
Kaina, c'est pas son nom, hein, c'est pas son nom. Donc c'est un objectif qu'on lui a collé parce
c'est Dia, dit, hein, c'est ça.
C'est Dia. Voilà. Et tellement elle était balèze, donc elle a vaincu donc toutes les armées arabes qui venaient pour conquérir l'Afrique du Nord, qu'on a dit qu'elle était une prophétesse, qu'elle arrivait à voir l'avenir. Donc ils ont été défaits à plusieurs batailles.
Oui.
Ils n'arrivaient pas à croire qu'une femme pouvait être aussi stratège. On lui a collé Kaina, c'est-à-dire celle qui peut voir un petit peu le... Bah, après, on a traduit ça par la sorcière et tout, c'est pas du tout ça. C'était un petit peu plus prophétesse de ville. Un petit peu une devineuse, une prévoyeuse doit venir, etc.
Oui, elle avait un don de sentir les choses, hein, ça existe.
De sentir les choses, Vanessa. Et elle était reine de son peuple. Oui. Et on avait très peu des reines. On parle de reine de Saba comme une exception, c'est pas vrai. Des peuples qu'on disait barbares avaient des femmes qui étaient à leur tête et qui étaient très respectées. Elle était même chef de guerre.
Oui.
Ah oui. Et elle avait des enfants, mâles et femelles.
Elle avait des enfants.
Absolument.
Ah oui, d'accord.
Absolument.
Ouais.
Ils ont combattu au front avec tous ces soldats. Donc, la grandeur de cette femme serait, on pourrait la transposer aujourd'hui, elle serait aussi grandiose. Hein.
Ah oui.
Même aux valeurs actuelles. Alors, plus à l'époque où il n'y avait pas de femme qui avait cette... À part Cléopâtre qu'on connaît dans l'histoire, et on n'a pas eu beaucoup de femmes qui étaient donc reines, chefs de guerre et qui ont résisté à... la Kaina était une dame et le reste, bon, la traiter d'avoir des esclaves et tout, c'est du n'importe quoi, parce que à l'époque, les généralement, les Amazirs n'avaient pas d'esclaves.
Ah oui, c'est ça.
Les hommes libres.
Oui.
Et ils ramenaient des gens qui travaillaient, ils les payaient.
Oui.
Et on les considérait comme donc à leur service, mais ils n'ont jamais eu d'esclaves.
Oui.
Ni le nord, ni le sud d'ailleurs.
Et
cette dame, c'est parce qu'elle s'est opposée donc aux conquérants, entre guillemets, musulmans, parce que c'est des conquêtes plus qu'autre chose. On a gardé d'elle l'image dans le monde un petit peu arabo-musulman négatif.
Oui.
On est censé donc...
C'était dans la culture arabe, l'esclavage, puisque c'est connu, ça.
C'est dans la culture arabe, absolument.
Oui, donc, on le sait, dans les écrits, on le voit, dans les reportages, on peut aussi le voir, sans aller dans les mêmes...
Dans beaucoup de civilisations, Vanessa, dans beaucoup de civilisations du monde, à l'époque, c'était le Moyen-Âge. les Romains on avait, les Grecs on avait, voilà, etc. Ouais. Donc les vaincus d'une guerre devenaient esclaves.
Ouais.
Les vaincus d'une guerre devenaient esclaves. Et seul Alexandre le Grand n'en a pas fait.
D'accord.
Alexandre le Grand a compris que intégrer les populations locales était plus ingénieux. D'ailleurs, il a fait un empire, il est mort à 33 ans, très jeune.
Mm-hmm.
Il a fait le plus grand empire en créant des villes d'Alexandrie un peu partout. Bon, celle qu'on connaît, c'est en Égypte, mais il en a fait partout. Alexandrie, ça vient d'Alexandre, hein, c'est clair.
Oui,
il est mort de la malaria.
Oui.
Mais c'est un homme qui a su se marier avec des autochtones. Il a incité son armée à faire de même, donc à intégrer les gens qu'ils avaient conquis. Il a pu donc avancer en laissant derrière lui des royaumes qui lui étaient loyaux. La Kaina était une femme qui était admirée dans toute l'Afrique du Nord. Elle a fait une armée qui était invincible. Il a fallu plusieurs offensives et des renforts pour qu'il puisse la battre. Elle était usée.
D'accord.
Une grande dame, je dis bien qu'elle est citée même par des chroniqueurs, des grands femmes. Je ne sais pas si vous suivez donc un monsieur très intéressant qui a un site qui s'appelle Nota Bene.
Comment ?
Qui parle d'histoire et qui appartient à Nota Bene.
D'accord.
Donc il est très intéressant. C'est un monsieur, franchement, il est jeune, hein, il fait donc des chroniques historiques. Il a parlé des femmes, il a parlé de la Kaina, il a parlé de Fatma Soubad, etc. Des grands femmes qui ont.
Il s'appelle comment ?
Alors, le site s'appelle Nota Bene. Donc, on peut voir ses vidéos.
Lota, elle ? Nota Bene. Ah oui, d'accord, oui, Nota Bene.
Donc, le monsieur avec une barbe et tout, très intéressant. Il a écrit des livres, il a un fan club, il a des milliers, il vient publier sur les Vikings et tout. Mais franchement, sa façon de raconter, elle est très objective.
D'accord.
Elle est en dehors de toute considération un petit peu partisane. Et il a fait une émission spéciale pour les grandes femmes. Il a parlé de la Kaina.
D'accord.
Les grandes femmes d'histoire. Donc,
déjà,
on
ne
peut pas remettre en cause sa grandeur.
J'ai une question.
J'espère qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui.
Ben oui. J'ai une question de la part de Joe Winston, sur le mur de Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il me met ? Il me met... Alors, je lis textuellement comme il a écrit, même si je n'ai pas tout compris, on va voir. Ah, il dit, selon les récits, travaux scientifiques sur les origines de l'islam et du Coran, peut-on envisager que... il a écrit Mahomet, bon, nous on dit Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a été investi de son image prophétique bien après sa mort. Cette dernière daterait de 634 et les conditions de sa mort sont troubles. Les califes ont... précipiter sa mort et se sont attribués le pouvoir lors du pacte de la Saqifa au détriment de Ali et de Fatima qui a été assassiné. Je sais pas si tu as compris, hein. Moi j'ai pas.
Oui, oui, j'ai compris.
Ah d'accord. Bon.
Écoute, sa mort a été précipitée. Beaucoup de thèses le disent aujourd'hui parce que il y a eu toute une guéguerre pour prendre le pouvoir. Effectivement, Saqifa était blanc à base. Elle est connue. Donc. Quand il est mort, tous les califes n'étaient pas là. Ils ont assisté un petit peu à un conclave pour désigner le successeur. Il a été enterré par Ali et sa fille et quelques croyants, quelques compagnons aussi.
D'accord.
Effectivement, on peut spéculer sur ça. Il n'a pas été enterré le jour même. Il a été enterré 3 jours après. Il est mort à lundi. Il a été enterré le mercredi. Donc, ça contredit ce que disent les barbus aujourd'hui qui veulent enterrer les gens une heure après.
D'accord. Ouais.
Et ça donne une dimension humaine à tous les califes qu'on est en train d'idolâtrer aujourd'hui.
Ouais, c'est fou.
Ça donne une dimension humaine et un aspect politique.
Ouais.
À un message qui était spirituel, uniquement spirituel.
D'accord.
On en a fait un outil de pouvoir et aujourd'hui même, le roi donc, d'Arabie Saoudite vient de déclarer que les hadiths, il faut les réduire à 100, de 600 000. Hein.
D'accord.
Donc on voit bien que comment ils ont été écrits par le pouvoir d'un... Ben, c'est un monarque qui a décidé de les écrire ou plusieurs monarques et c'est un monarque qui va les réduire.
Oui.
Mais c'est le même format, les formes d'effacement et d'écriture. Par contre, le message spirituel est universel. C'est ce que ne veulent pas comprendre un petit peu les barbus qui sont partis dans les excès, dans le terrorisme, dans la maltraitance des femmes, etc.
Oui, qui a complètement dénaturé le message, quoi.
Mmh. Ben, ils ont tout utilisé pour mettre en verve un petit peu leur virilité et leur masochisme.
Oui, c'est
un
ça.
Un abus de pouvoir.
Ouais. Alors il dit, le Coran a connu plusieurs versions concurrentes Il a été rédigé sur plusieurs décennies et bien après le prophète.
Non, ça, ce n'est pas une thèse qui est retenue. Elle n'est pas très sérieuse comme dans conclusion. Beaucoup d'orientalistes ont spéculé sur ça, mais disons que les versions du Coran, à part quelques lettres qui sont un peu différentes, nous avons une cohérence totale sur le thème. Parce que le proto-Coran qui a été fait par le prophète, il a été repris par Othman ibn Affan, le quatrième calife, et c'est cette version qui est restée jusqu'à aujourd'hui, avec ses imperfections dans la collecte. Hein.
Ah.
Avec ses imperfections, je le dis bien.
D'accord. Avec ses imperfections.
On n'a pas pu. D'accord. Oui, avec ses imperfections. Mais on ne peut pas dire que ça a été écrit après ou que ça a été rédigé après. Non, c'est un petit peu abusé de rentrer dans la brèche, quoi.
Oui. Oui, parce qu'après, bon, chacun y va un petit peu de sa théorie personnelle ou je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il y a tellement de sources que finalement les gens parfois, se perdent un petit peu. Hein?
Non, parce que parfois, Vanessa, on lit 10 versions, on aime bien une seule. Elle correspond à ce qu'on voudrait
croire,
donc
veut, voilà,
on insiste dessus. Ouais.
C'est ça.
L'objectivité est très complexe, hein, elle est très très compliquée. Hein. Il faut vraiment faire du recul pour être objectif. C'est pas donné à tout le monde et c'est très difficile chez l'être humain.
Oui, de prendre comme ça du recul, un peu de distance, ça aide à la réflexion. C'est vrai que c'est pas
évident. On opte pour un petit peu la réponse qui correspond à nos désirs ou à notre méthode de réflexion. Ça correspond, ouais. Bon, ça colle et c'est tout.
On a Zara, Samir. Zara de Romorantin. Bonsoir Zara.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir ma Zara.
Bonsoir ma Vanessa, je te remercie pour tes compliments, hein. T'es un amour.
Mais je le pense.
Je sais, moi aussi, quand j'en fais, j'y pense toujours aussi.
Merci ma chérie.
Je suis très contente de pouvoir parler en direct avec Samir pour la première fois.
Je te laisse bonsoir, avec Samir.
Bonsoir Samir.
Bonsoir Zara.
Voilà, enchantée. Alors moi je voulais savoir pour le droit des femmes dans l'islam, parce que pour certains nous ne sommes pas considérés et on n'a aucun droit. Apparemment. Ben, moi, je sais bien que c'est faux, mais je voulais avoir votre avis.
Alors, la femme... il faut d'abord comparer comparativement avant l'islam et après l'islam. Donc, avant l'islam, je dis bien, en Arabie, il y avait deux tribus, donc les Ibn Tamim, etc., qui considéraient que la femme devait être enterrée vivante dès sa jeunesse, mais pas toute l'Arabie. Pas toute l'Arabie.
Oui.
Il y avait des abus contre la femme, des abus injustifiés, hein, quel que soit le temps. Et l'islam a un petit peu redoré le blason de la femme dans le contexte de l'époque. Elle a eu le droit, donc, absolument, elle a eu le droit donc d'avoir un héritage. Elle a eu le droit de se remarier après avoir perdu son mari.
Oui.
Et c'est... donc elle avait tous les droits d'avoir des biens, de posséder, d'être commerçante, c'est toute la liberté du code civil, quoi.
Ah oui.
Et après bien sûr, il y a le côté un petit peu macho des hommes qui prend le devant. Vous lui donnez n'importe quelle idéologie, il va la traverser pour garder la mainmise.
Ah oui, c'est vrai.
Il avait tellement... Absolument. Il y avait des femmes qui combattaient dans les rangs des musulmans.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, on n'autorise pas beaucoup ça.
Eh oui.
La première chose avec laquelle la femme elle est battue et martyrisée, on parle de risque d'adultère, alors qu'on en parle une fois pour toutes. Par contre, regarde bien, le seul qui a accusé sa femme d'adultère, il est venu parler au prophète, il lui a dit, j'ai vu ma femme avec quelqu'un. Il lui a dit, si tu ne ramènes pas 4 témoins oculaires, tu auras 100 coups de fouet.
Ah oui, parce que il aurait pu inventer.
Non, mais 4 témoins oculaires, genre, c'est pratiquement
impossible. Enfin, ça m'a fait toujours doucement sourire, parce que... voilà, une personne déjà quand elle commet ce qu'on appelle l'adultère, je veux dire, elle le fait dans une discrétion, c'est la discrétion la plus totale possible, imaginable, parce que c'est pas possible. Voilà, une seule personne déjà, déjà une personne, c'est énorme. Donc elle le fait vraiment, te retirer dans l'ombre et tout ça, dans tout ce que tu veux. Alors, jusqu'à demander 4 personnes pour que ce soit validé, C'est un truc qui m'a toujours un petit peu...
Et pour disculper les femmes, Vanessa, il y avait énormément...
C'est-à-dire que c'est comme si on leur donnait... Voilà, on leur donnait la possibilité de commettre l'adultère. Non ? Est-ce que c'est pas ça ? On excusait l'adultère, non ? C'est pas ça ?
Oh, pas du tout, parce que les hommes...
Non, mais concernant les... Moi, je parle pas des femmes, hein, je parle des hommes, là. Hein. Parce que les femmes, c'est qu'une...
Non, on parle des femmes, parce que les femmes qui étaient plus accusées de ça. Donc, dans la société un petit peu masochiste et macho des musulmans, l'homme, c'était pas très grave parce qu'il pouvait, à la limite, régulariser. La femme, on a vu, donc, avec les talibans, ils exécutaient des femmes dans les stades avec une balle dans la tête, soi-disant qu'elle a commis l'adultère, alors qu'il faut qu'un témoin pour prouver l'adultère. C'est pour protéger
c'était la femme. C'était pour les protéger, les sauver. Ça, oui, vu comme ça, oui, oui. C'est vrai, en plus.
Il faut trouver qu'un témoin.
Ouais.
Alors, dans le code, du commerce des musulmans, Vanessa, si un commerçant fait faillite, les biens de sa femme ne sont pas acquittés.
Ah ouais.
Ah oui.
Alors, moi, c'est l'histoire de l'héritage, moi, qui me chiffonne. Hein. On en parle souvent, Zara. C'est vrai, c'est l'héritage.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi
oui,
la femme hérite la moitié, quand même?
Oui, voilà. Bah, elle hérite pas de la moitié.
Hein? Oui.
Oui, mais ça c'est à titre d'indication, ça n'a jamais été une obligation dans le Coran, quand on lit bien le Coran.
Ah,
il n'a pas donné donné toutes les combinaisons, il n'a pas donné toutes les combinaisons d'héritage. Il a donné quelques indices pour ne pas exclure la femme et la fille.
Ça aurait pu être plus clair aussi. Enfin, moi, je suis vraiment le poil à gratter.
Oui, non, mais
tu sais, Vanessa, il y a beaucoup qui inventent aussi, qui détournent.
Non, non, c'est pas inventé, c'est écrit, c'est écrit, façon, Samir, c'est écrit.
Non, c'est écrit, mais ça a ouvert une voie, Vanessa. La femme n'avait rien quand son mari...
Oui, mais voilà, moi j'entends que c'est contextuel. Mais comme Dieu est omniscient, ou je ne sais comment le nommer, parce que il est dans tous les... Il n'y a pas de temps pour lui, le temps n'existe pas. Il savait très bien que arriveront les époques où les choses vont être différentes. Il connaît l'être humain. Donc je ne sais pas si depuis le départ, il fallait pas... voilà, expliquer les choses, les régler. Parce que c'est pas possible. Parce que là, quand j'entends ça, c'est comme si on me disait que Dieu, c'est comme un être humain. Il a fait les choses dans la précipitation pour régler le problème à une époque donnée. Et puis après, adviendra qu'adviendra, puisqu'il n'est jamais revenu nous parler. Alors donc, on est dans la daube, quoi, tu vois.
Non, mais est-ce que Dieu avait la prétention de nous régler tous nos problèmes? Pas du tout. Il nous a demandé d'être juste, il nous a donné 10 commandements essentiels dans toutes les religions. Le reste, ça reste à l'appréciation des hommes.
Eh bien, il aurait dû le mettre, ça, dans le Coran, en disant, débrouillez-vous avec l'héritage, allez.
Oui, non, il a dit que la femme doit hériter du parti et la fille doit hériter du parti. Avant, les femmes n'héritaient pas.
Ah ouais,
même dans les sociétés occidentales.
Ah oui,
c'est juste... pas évident. Et avec les princesses, etc. Et une fois qu'il a ouvert, il n'a pas dit vous devez donner le tel pourcentage. Il a dit à la femme à minimum le droit. Mais ce sont les hommes, ça intéresse. D'ailleurs, les barbus ne donnent même pas la partie qui a été désignée par Dieu. La majorité des conflits devant les tribunaux, des barbus.
Excuse-moi,
leur sœur.
Ouais, je pense que au moment où la religion, parce que tout à l'heure je parlais d'un truc concernant la religion, tu sais, les houris, tout ça. Je pense que si à l'époque on avait dit la femme prendra autant que l'homme, peut-être que la religion, elle serait morte à ce moment-là, quoi. Les gens n'auraient pas pratiqué, parce que c'est les hommes qui faisaient les sociétés. Donc les hommes n'auraient pas pratiqué ou suivi une religion qui leur dit la femme sera l'égale de toi, monsieur. Le monsieur, il va pas être content. Il se dit, non, qu'est-ce que c'est que cette religion? La femme, elle est mon égale. Je sais pas, tu vois, mon raisonnement à moi, quoi. Hein, Samir? Tu m'entends?
Est-ce qu'il m'entend? Il dit, ne tuez pas vos enfants. Est-ce que ça se dirait aujourd'hui?
Ouais.
Ne tuez pas vos enfants. Il parlait de ceux qui n'étaient pas contents parce qu'ils avaient un enfant malade. Ouais. Il a dit, ne tuez pas vos enfants.
Punaise. Il a fallu
aller
jusque-là.
Aujourd'hui, ça passerait pour un message évident.
C'est vrai. Samir, oh, c'est fini. On me dit. Ah, comment ça passe vite, Zara, je t'embrasse.
Je t'embrasse, Vanessa, puis merci Samir pour vos réponses.
Salut, à bientôt, ma Zara, bisous.
Si on vous entend.
Voilà. Merci, à bientôt, ma chérie. Samir, je te dis au revoir et merci, merci, merci mille fois. D'accord?
Allez, bonne soirée.
On t'embrasse, merci. Ah, ça fait du bien d'écouter Samir, il nous apprend beaucoup de choses. Je suis très contente, il nous a parlé de Kaina, tout ça, de beaucoup de choses là ce soir, on a appris beaucoup de choses. Et j'étais très heureuse qu'ils répondent à l'auditeur tout à l'heure concernant justement le monothéisme d'antan, avant les religions monothéistes qu'on connaît, quoi, avant le judaïsme, etc., à ne pas confondre entre les religions monothéistes qu'on connaît et celles qui existaient avant, qui n'ont rien à voir, zarathoustréen, comme il dit, etc. Merci Samir, tu nous as bien éclairé. Terminé pour ce soir. Giovanni, on se dit à demain.
À demain, bonne nuit.
Belle et douce nuit, chers amis, faites de beaux rêves. Notre rendez-vous demain, confidence, à partir de 22h, voilà. Ok, pour terminer la semaine ensemble en beauté. Allez, dormez bien. Et puis là, tout de suite, c'est une rediff de Philippe Robichon, mon collègue, AVS et ses invités. À demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.